Bonjour Xavier, au micro de RFM, bienvenue dans Faits et Documents, l'émission de la rédaction de Faits et Documents. Le fil rouge de notre émission sera l'état profond à travers l'ouverture en France d'une affaire qui a éclaboussé tout l'été aux États-Unis, en Angleterre et partout dans le monde, qui est cette affaire Epstein. Le 23 août, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur l'affaire Epstein, ouvrant donc le volet français de cette affaire. Et quatre jours plus tard, Emmanuel Macron utilisait dans son discours aux ambassadeurs le terme « état profond ». En réalité, cette expression d'état profond a été popularisée d'abord en Turquie. C'est ça, ce qu'on appelait le Derin Devlet dans les années 90 pour qualifier les réseaux kémalistes alors au pouvoir. Donc ce sont des réseaux liés à la franc-maçonnerie turque, essentiellement composés de Dönme, ces maranes du monde musulman. La puissance de ces réseaux combattus par Erdogan explique des faits a priori inexplicables, par exemple que la Turquie soit un pays laïque ou encore que l'aviation israélienne se soit entraînée sur le sol turc jusqu'à très récemment. Pour approfondir cette notion, nous renvoyons aux travaux de Peter Del Scott, donc professeur honoraire à Berkeley, mais aussi au numéro de la revue italienne de géopolitique Limes, consacré aux Stati Profondi et à l'article publié dans le numéro 16 de la revue Conflit de Tancred Josserand. À propos de cette revue, qui s'inscrivait dans une vision non alignée des relations internationales sous la houlette de Pascal Gauchon, notons qu'elle vient de tomber entre les griffes de l'état profond, à la suite de sa reprise par Gilles Mizrahi, israélien naturalisé en 2014, et bras droit d'Elisabeth Lévy. Alors l'expression état profond a été popularisée pour le grand public par Donald Trump depuis 2016, c'est ce qu'on a appelé le Deep State, expression maintenant officiellement utilisée par Emmanuel Macron, et ce au moins pour la quatrième fois. La première fois devant des journalistes à l'Élysée à la fin du mois de janvier, il avait expliqué que l'état profond n'avait pas assez changé. Libération l'avait rapporté à l'époque. Il a aussi utilisé cette expression deux fois le 21 août lors d'une rencontre avec l'association de la presse présidentielle à propos des obstacles à sa politique de rapprochement avec Moscou et de la rédaction de communiqués du G7, ajoutant qu'il ne voulait pas être, je cite, « l'otage de gens qui négocient pour moi ». Et enfin donc, ce 27 août, quatre jours après que le parquet de Paris ait ouvert une enquête sur l'affaire Epstein, alors qu'il venait d'aborder le dossier iranien et qu'il allait aborder la question russe lors de son discours au corps diplomatique, il a prononcé cette phrase que je te laisse lire, Vincent.
Je sais que, comme diraient certains théoriciens étrangers, nous avons nous aussi un état profond. Et donc parfois le président de la République dit des choses, se déplace et dit quelque chose, puis la tendance collective pourrait être de dire « il a dit ça, enfin nous on connaît la vérité, on va continuer comme on l'a toujours fait ». Je ne saurais vous recommander de ne pas suivre cette voie, d'abord parce qu'elle est collectivement inefficace puisqu'elle décrédibilise la parole du président de la République et par voie de conséquence, elle décrédibilise la parole de celles et ceux qui les représentent. Mais surtout, elle nous enlève de la capacité à faire et donc, dans cette capacité à repenser les grandes relations, il y a notre relation avec la Russie.
Voilà, il y en a un qui affronte l'état profond, et on le voit avec cette affaire Epstein qui a un grand déballage, c'est Donald Trump qui l'affronte maintenant depuis 4 ans, et pour en parler, nous recevons Alain Soral et Pierre Jovanovic. Une affaire qui nous a tous passionnés, puisque ça a été le feuilleton de l'été.
Le grand feuilleton de l'été,
et pour poursuivre sur la thématique de notre émission qui est l'état profond, c'est l'affaire Epstein, avec trois grands moments forts. C'est le premier, c'est début juillet, le 6 juillet, son arrestation dans le New Jersey à son retour de Paris. Le 10 août, son suicide, on va dire comme ça, on reviendra dessus plus tard dans l'émission. Et puis, le 23 août, enfin, l'ouverture d'une enquête par le procureur de Paris, Rémy Heitz.
Ils ont du mal, hein. On doit dire l'affaire Epstein, je vous ferai remarquer.
Oui.
Quand c'est positif, c'est Albert Einstein. Quand c'est négatif, c'est Epstein, comme Poutine.
Comme Weinstein. Alors c'est une affaire absolument gigantesque avec une documentation très importante qui sort absolument de partout, avec un dossier de 2000 pages qui a été mis en ligne sur internet, le carnet, le fameux carnet d'adresse de Jeffrey Epstein qui a été mis en ligne, avec les numéros de téléphone cette fois qui avaient été mis en ligne en 2015. D'ailleurs le journal avait, le site internet qu'il avait mis en ligne avait fermé depuis, donc tout ça réapparaît. Alors on voit se dessiner disons, le cœur nucléaire du nouvel ordre mondial avec politique, showbiz, un gros tropisme aussi scientifique, un gros tropisme qui tourne autour des hôtels, des architectes d'hôtels, étrangement des propriétaires d'hôtels, évidemment les agences de mannequins, avec derrière les services secrets, les plus gros réseaux mondialistes, puisque Jeffrey Epstein était membre de la commission trilatérale, du Council on Foreign Relations. On voit aussi un gros tropisme du côté de l'Institut Aspen. Donc vraiment le cœur nucléaire, je dirais, du nouvel ordre mondial, qui se dévoile sous nos yeux, avec un système, on peut le dire, de compromat, c'est-à-dire d'abus sexuels, de délinquance sexuelle sur mineurs, qui sont filmés pour éventuellement faire chanter des individus par la suite.
C'est pas pour éventuellement, c'est pour les faire chanter. ça me paraît évident. Et surtout, c'est une des plus belles opérations du Mossad, il faut le dire clairement, qui a été mise à jour. Parce que là, on voit la différence de traitement entre la presse française et la presse anglo-saxonne, que ce soit la presse américaine, la presse anglaise. On a fait des tonnes, mais des tonnes, le Daily Mail, tout au long de l'été. C'était c'est quasiment des numéros spéciaux, quoi, avec genre 3, 4, 10 pages spécial Epstein, et puis tous les jours ou tous les deux jours, c'est des nouvelles informations qui sortent, et en France, c'est silence radio, si
non,
dire.
En France, on nous a sorti au même moment l'histoire d'un chirurgien soi-disant pédophile, une histoire gravissime, qui était déjà en tôle depuis 3 ans, je crois, espèce d'écran de fumée grotesque.
Oui, c'est ça, c'est écran de fumée, une grande spécialité française.
Là, la presse française, encore une fois, s'effondre complètement, puisqu'en France, on nous explique que la presse anglo-saxonne, notamment les tabloïds, faut surtout pas les lire, que c'est limite des fake news, et ainsi de suite. On nous apprend que le Sun, c'est terrible. Or là, on découvre, en se replongeant dans les archives, que le nom d'Epstein, alors qu'il vivait une partie de sa vie à Paris, à deux pas de l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire qu'il était connu de tous, n'a jamais été cité dans la presse française avant le début de l'affaire, jamais, alors que tout était dans le Miami Herald depuis 2002-2003, le New York Post, ensuite en Angleterre, dans le Sun, dont on nous dit que c'est vraiment la poubelle, le Daily Mail, toute la presse anglo-saxonne.
Tu as raison, mais précisons justement que là, pour une fois, d'abord le New York Times, ce qui est assez inhabituel, et le Wall Street Journal, encore plus inhabituel.
Et Vanity Fair, parce que
qui ont traité toute cette affaire Epstein tout au long de l'été, et qui continuent encore à le faire aujourd'hui.
Et même Vanity Fair, à la version américaine, elle dévoile les liens évidents d'Epstein avec le Mossad.
Ouais. Alors, pour vous donner une petite idée, hein, parce que alors vous retrouverez une petite partie, hein, parce que moi c'est pas mon Epstein, l'affaire Epstein, c'est bon, c'est mais là ça, on a franchi un cap, c'est-à-dire que quand j'ai vu que Bill Gates était dans l'avion, et ceci après son arrestation de 2002, je me suis dit bon, là il y a quand même un sérieux problème. Alors là je vous cite un article américain. Epstein a financé une compagnie qui s'appelle Carbine 911, donc déjà 9 et 11, hein, donc ça vous rappelle quelque chose. Et donc il a reçu à peu près, alors je crois que c'est à peu près 2 millions de dollars pour financer cette compagnie, en compagnie justement de l'ancien Premier ministre d'Israël Ehud Barak et du grand financier de la Silicon Valley Peter Thiel, hein, donc qui entre autres est dans PayPal, enfin c'est dans PayPal, etc. Donc là c'est vraiment très intéressant parce que Carbine 911 en fait vend des systèmes de surveillance globaux aux municipalités pour prévenir, vous savez, quand chaque fois qu'il y a un dingue qui arrive dans un supermarché ou dans un centre commercial et qui ouvre le feu sur tout le monde. Donc en fait cette société propose de prendre le contrôle de tous les mobiles, d'accord, et d'écouter à distance et même d'ouvrir les caméras pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, à terme, si vous voulez, c'est carrément orwellien. Et d'ailleurs, l'article est orwellien. Alors donc, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur quotidien.com, vous allez retrouver tous les liens. C'est des articles extrêmement longs. Et donc, quand on parle du Deep State, hein, j'insiste là-dessus, je fais juste une petite parenthèse. J'ai pu constater qu'effectivement Erdogan et Trump sont traités de la même façon par l'ensemble de la presse européenne, c'est-à-dire Erdogan est un fou, Trump est un fou, et vous retrouvez ça à la une de tous les magazines, que ce soit l'Express, Le Point, le Bild allemand, en Espagne, en Italie. Et donc on voit bien qu'il y a une force, hein, ce qu'on appelle le deep state. Alors on peut mettre plein de choses là-dedans, ce qu'on veut, mais on voit bien que il contrôle les médias, et ce qui est absolument extraordinaire dans cette affaire, c'est que on voit bien que c'est une affaire montée depuis longtemps par le Mossad pour prendre le contrôle de tous les médias. Et on le voit bien, puisque Maxwell, le fameux grand patron
le père de Ghislaine Maxwell,
mystérieusement disparu en tombant de son yacht la veille de la déclaration de la faillite totale de ses entreprises de presse.
Absolument. Il y a un livre qui lui a été consacré d'ailleurs. C'était un agent du Mossad qui était chargé de racheter l'intégralité de la presse anglo-saxonne, donc pour favoriser. Et je finis là-dessus, juste une seconde. Et c'est là où je fais la relation dans ma revue de presse. Je dis simplement que aujourd'hui, Drahi, qui possède BFM, que j'appelle BFMVC, et qui possède une partie de l'édition française, et qui possède en même temps Libération, L'Express, SFR, etc., je ne peux m'empêcher de faire une relation de cause à effet entre l'affaire Maxwell et Drahi. C'est autrement dit, Drahi égale Maxwell d'il y a 15-20 ans.
Oui, c'est voilà. Drahi, c'est le Maxwell français.
Exactement.
Et surtout, il achète tout ça sans argent, avec des montages frauduleux que personne d'autre que quelqu'un très initié dans la banque, au sens où on la comprend nous avec un grand B, personne d'autre ne pourrait avoir le droit de faire de tels montages qui sont de la pure cavalerie.
De la cavalerie.
Alors, je voudrais évacuer tout de suite une question que nos auditeurs se posent aussi, parce que dans la presse française, on a beaucoup parlé et on vit malgré tout en France sous une chape de plomb, c'est évacuer la question Trump. C'est-à-dire que quand on lit la presse française, on a l'impression que c'est une affaire
Trump qui vise
Donald Trump.
Absolument.
Or, l'affaire Epstein a en fait éclaté aux États-Unis il y a 15 ans. Il y a 15 ans.
Il a déjà fait de la prison, faut pas oublier.
Absolument. C'est de la prison en dentelle.
Lors de sa première condamnation, voici ce que dit l'avocate des victimes lors de la première, donc affaire Epstein, première condamnation en 2009. Elle dit que Donald Trump est le seul qui, en 2009, lorsque j'envoyais des assignations à comparaître à beaucoup de personnes, ou au moins que j'indiquais à des personnalités que je souhaitais leur parler, a pris son téléphone et m'a dit « Discutons autant de temps que vous voulez, je vais vous dire ce que vous devez savoir. » Il était très utile dans les informations qu'il a révélées, sans pour autant donner la moindre indication qu'il était impliqué dans quoi que ce soit d'important. Il disposait de bonnes informations, cela nous a aidés. Donc l'avocate des victimes nous dit bien que c'est Donald Trump qui est à l'origine. C'est-à-dire qu'en ayant fréquenté Epstein, il a vu ça, il l'a refusé. Et aujourd'hui, à un an de son élection, il déclenche et il donne un coup de pied dans la fourmilière, il faut le dire, du sionisme international.
Alors justement, quand cette affaire a éclaté, quand je voyais ça dans la presse tout au long de l'été, je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre, on a l'impression qu'ils ont sacrifié, c'était ma première impression, je vous dirai ce que vous en pensez, on a l'impression qu'ils ont sacrifié Epstein dans l'espoir d'avoir des films ou des photos avec Trump et des gamines. Et malheureusement, ça leur a explosé à la figure. Ça, c'était ma première impression. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais clairement, on a vu la presse européenne mettre en évidence ou à la une des journaux, principalement des photos d'Epstein et de Donald Trump.
Plus précis, en général, ils mettent en équivalence Trump et Clinton. Alors qu'il y a une surimplication de Clinton et de sa femme dans l'affaire Epstein, et pas du tout de Trump. Mais aujourd'hui, comme ils sont un peu gênés, je parle des médias français, parce qu'ils peuvent pas mentir trop longtemps, ils en sont à dire les présidents sont impliqués, Trump et Clinton. Alors que quand on creuse dans le dossier, Trump a refusé visiblement de rentrer dans le 9e cercle de l'enfer, hein, parce que c'est de ça dont on pourra parler à un moment donné avec l'affaire O'Brien et tout ce qui s'interconnecte, hein, avec le MK Ultra et tout ça. Alors que Clinton est systématiquement cité, et d'ailleurs là vient de sortir un tableau étrange, on voit Clinton en robe de femme avec des talons aiguilles rouges.
C'était un grand tableau.
Et l'artiste qui a réalisé le tableau a fait un autre tableau de George Bush en train de faire avec un avion en papier de détruire des tours en Kapla. C'est un artiste assez inspiré, j'ai l'impression qu'il faudrait rentrer en contact.
Tout à fait.
Et rappelez-vous de la campagne Trump Trump-Clinton, quand Trump avait dit à Hillary Clinton, votre place devrait être en prison.
Absolument.
Il y avait une menace, il y avait déjà une guerre secrète. Hein. Et je pense que c'est cette guerre secrète qui est en train de sortir au grand jour, puisque le deuxième mandat de Trump arrive, enfin je veux dire l'élection pour le deuxième mandat arrive. Il y a quand même un calendrier dans tout ça, il y a une guerre secrète aux États-Unis, c'est clair, entre l'État profond et ceux qui résistent à l'État profond.
Ah, c'est clair, là c'est vraiment très net.
et ou en tout cas deux états profonds.
Deux. Oui, mais ce qu'on appelle voilà. état profond, voilà. c'est ce que Kennedy avait dénoncé avant de mourir, c'est la perte la perte du contrôle de l'Amérique de son destin par
au profit en fait de toutes les compagnies d'armement qui sont aujourd'hui General Dynamics, Raytheon, etc. encore.
Sur le volet français, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on arrive au fameux patron de l'agence de mannequins, donc Jean-Luc Brunel, dont, alors, on a découvert ça en redécouvrant les livres d'Henri Coston, à qui on rend donc un hommage posthume, qui l'avait identifié dès février 1962, à l'époque où il avait changé de nom, et il s'appelait Jean-Luc Benchamoul. Donc Jean-Luc Brunel en fait s'appelle Jean-Luc Benchamoul. Alors ça c'est pour nos amis
de
Mediapart.
Il a changé de nom officiellement ou
c'est un changement de nom avec son père.
D'accord.
Avec son père. Donc en fait c'est Jean-Luc Benchamoul. Alors je vois que nos amis de Mediapart s'y sont mis d'ailleurs en mettant Trump en accusation. Eh ben on les met au défi de révéler la vraie identité de Jean-Luc Benchamoul et peut-être que sous cette identité là, en faisant des recherches, on pourra encore trouver des choses qu'on n'a pas encore trouvées et enfin tirer la pelote de laine du volet français de l'affaire Epstein, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le volet français de l'affaire Epstein.
Oui, parce que n'oublions pas qu'il a été arrêté alors qu'il descendait de l'avion en provenance de Paris.
Et rappelons aussi que l'enquête est ouverte au moment où Emmanuel Macron organise le G7. Et à ce moment-là, il a vu Poutine à Brégançon, il voit Trump au G7, et c'est à ce moment-là, alors qu'il y a eu une phase d'hésitation, parce qu'au début, Marlène Schiappa, donc la secrétaire d'État à l'égalité des femmes, et Adrien Taquet, il me semble, hein, qui est le secrétaire d'État à la petite enfance, avait dit « bon, on va ouvrir une enquête ». Et puis là, Belloubet avait tout de suite bloqué, on dit « non, non, on fera pas ça ». Et puis, lors du G7, précisément lors du G7, et à la fin du G7, je rappelle qu'Emmanuel Macron s'en est pris à l'état profond, hein, dans son discours aux ambassadeurs.
Il a cité l'expression « état profond », je crois, deux fois.
Voilà, deux fois, en disant « l'état profond m'empêche de dialoguer avec les Iraniens, l'état profond m'empêche de dialoguer avec les Russes ». Donc c'est quand même une vraie...
C'est une ouverture.
Donc là, à mon avis...
Donc la ligne, on va dire la ligne Trump-Poutine, qui est la ligne de force actuelle, on a l'impression que Macron a compris que c'est ce train-là qu'il fallait prendre s'il voulait avoir un avenir, et que peut-être ce pourquoi il avait été mis en place pour servir de fusible au réseau, on va dire, à Tali, il a compris que peut-être ce poste de fusible, il avait des raisons de ne pas s'en contenter, puisqu'en fait, on l'envoie en fait au casse-pipe. Hein. Et en ce moment, il y a des choses comme ça qui se passent. On voit que... C'est pour ça que les gens qui disent Macron démission, ça fait moins que je dis non, non. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Laissons-le aller jusqu'au bout, parce que n'oublions pas qu'il est président de la République, et que c'est le président de la République français, selon la 5e République, est celui qui a le plus de pouvoir, qu'il a été mis en place sans effort, c'est un peu le syndrome Kennedy, donc avec une certaine arrogance, parce qu'il n'a pas la soumission à laquelle avait dû se soumettre à un Hollande, par exemple, qui est prêt à tout accepter. Et quand il a dit, au début de l'affaire, le responsable c'est moi, venez me chercher, et il y avait eu un article derrière où il était rappelé à l'ordre par Attali, rappelez-vous, en disant tu n'es qu'une baudruche, hein. Tout ça existe. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a Macron qui tente d'avoir un destin personnel en jouant du rapport de force, effectivement.
Et que fera l'état profond français? Parce que Macron est certainement tenu, bon, on sait à peu près, il y a l'affaire Alstom, General Electric, il y a le palais d'Arolfa que nous on a sorti il y a longtemps, on a fait les documents, il y a toutes les questions biographiques un peu bizarres autour de son enfance, on n'a jamais vu une photo de lui en culotte courte, sa vie commence avec sa rencontre avec Brigitte dans un cours de théâtre, ça fait vraiment penser au film de Polanski, The Ghostwriter, enfin, il y a quand même des zones d'ombre dans la biographie d'Emmanuel Macron qui sortiront quoi qu'il arrive, par en haut ou par en bas.
Enfin, Ghostwriter, n'oublions pas, c'est intéressant que tu cites ça, parce que Ghostwriter, c'est à la base, montre que le Premier ministre anglais était...
Tony Blair est un agent américain.
Est un agent de la CIA.
Et je te signale que...
Voilà. Et qu'on retrouve dans les carnets d'Epstein, évidemment.
Je te signale qu'au moment où Polanski fait ce film, se redéclenche aux États-Unis toute la procédure
contre lui,
tentant à le refouler en tôle pour viol de mineur. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il a été puni pour avoir osé faire ce film qui révélait quand même des choses assez subversives. En fait, juste pour conclure, depuis les années 80, on va dire en France, depuis l'élection de Mitterrand, l'état profond mondial ne fait que marquer des points. C'est la première fois aujourd'hui où il y a une espèce de tremblement avec une espèce de résistance qui s'affirme et qui marque des points. Il est en train de se passer quelque chose par rapport à un long processus de domination continue, pour moi que je date de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Hein, on est à un moment très important.
1982, on va dire, 82-83.
Ouais, le virage de la rigueur en France. Hein.
Juste pour finir là-dessus, ça correspond précisément au moment où lorsque Mitterrand a été élu, donc il a augmenté les retraites, le SMIC, etc. Résultat des courses, au bout d'un an, la France était en faillite totale. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé Jacques Attali voir les Saoudiens pour aller chercher quelques centaines de milliards afin de renflouer nos caisses. Les Saoudiens avaient dit, on est d'accord, mais à condition que vous mettiez en avant l'islam. Donc, et c'est à ce moment-là qu'est né, par exemple, le mouvement Touche pas à mon pote, hein, je précise. Hein, donc les deux vont ensemble, hein, je ferme la parenthèse.
Oui, bah, de toute façon, la question de l'islam radical et la question du sionisme sont la même histoire.
Hein, oui, tout à fait.
Parce qu'ils travaillent ensemble. Hein, je veux dire, l'islam radical est une production du sionisme international, pour effectivement créer la situation dans laquelle on est.
Hein. D'où le voyage de Jacques Attali.
Le choc des civilisations. Donc, alors un autre aspect sur lequel je voulais vous faire réagir, c'est le nombre de morts qui s'accumulent depuis qu'explose véritablement cette affaire. Alors, je prends un exemple, un très important mania américain de la presse qui s'appelle David Koch, hein, avec son frère, qui avait soutenu Donald Trump et puis qui avait retiré son soutien suite aux mesures protectionnistes donc de Trump. Donc ce mania est cité dans l'affaire Epstein et on a appris il y a quelques jours son décès d'un cancer foudroyant. Je vous citerai un autre exemple, c'est Maurice Hamon. Alors c'est donc on retrouve également dans les carnets d'Epstein. Alors lui, faut bien comprendre qui c'est la famille Hamon, c'est une famille qui est donc une famille juive de Salonique qui s'est installée en 1913 dans le canton de Vaud.
C'est ceux qui font l'encre pour les billets de banque du monde entier.
L'encre pour les billets de banque du monde entier. Donc là, quand on voit le réseau, on se dit, ah oui, là, c'est le DAB.
Avec la fausse monnaie aujourd'hui, les mecs, ils en vendent de l'encre.
Son surnom, c'est le DAB. Voilà. Donc c'est la famille Hamon. Donc son frère Philippe Hamon, homme d'affaires gréco-suisse, qui dirige ça. Donc ça s'appelle la SICPA, hein, société complètement inconnue. Il y a eu un article dans la presse.
Ah, mais
dans le monde,
société, c'est absolument pas connu.
Un article dans le temps, donc en Suisse, où il a même pas pu rencontrer le type en question. Et donc là, son frère, qui était jet-setter, est décédé d'un arrêt cardiaque fin juillet dans sa villa à Saint-Tropez, alors qu'il allait se rendre à un gala de la Croix-Rouge. Enfin, c'est magnifique, à Monaco.
Ça me rappelle les deux banquiers, hein, de la JP Morgan qui étaient en vacances à l'île Maurice dans un hôtel 18 étoiles, hein, parce qu'il y avait un domestique 24 heures sur 24 devant la porte. Et les deux banquiers, comme par hasard, ont été retrouvés mourus. Hein, voilà, c'est tout à fait...
Ça s'appelle faire le ménage.
Exactement. Hein. Je voudrais revenir sur la mort d'Epstein, si tu vois pas. D'inconvénients, parce que c'est quand même l'œuvre d'un grand service. D'autant que juste après son arrestation, il y a eu à peu près aux États-Unis une cinquantaine de sites qui avaient mis en place un compte à rebours. Il y avait un compte à rebours. On disait combien de temps va-t-il s'écouler entre avant qu'on le tue ou avant qu'il se suicide en prison, voilà.
Ou avant qu'on l'exfiltre, hein, parce que quand on se dit est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on l'a tué, c'est pour que tu penses pas au troisième terme.
Exactement.
Qui est l'exfiltration.
Ah, hein.
C'est possible aussi.
À ce niveau-là d'opération, c'est-à-dire rentrer dans la prison pour exécuter un mec qui était censé être surveillé 24 heures sur 24, toutes les demi-heures, etc. Bon, c'est clair que ils font ce qu'ils veulent. On est tout à fait d'accord. Xavier, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me fascine cette affaire
sur l'exfiltration
et les caméras qui tombent en panne.
Et les caméras qui, comme par
hasard...
Non,
mais sur l'exfiltration, il peut aussi bien être exfiltré par des gars pour le compte de Trump en ayant accepté de collaborer en vue du démantèlement du réseau qu'on est en train de...
Je pense pas que Trump aurait pris un risque pareil.
On peut tout imaginer. Ce que je me dis quand je regarde l'histoire de la mafia, parce que tout ça c'est des super mafias,
oui.
C'est que quand tu tues un type comme ça, t'as les autres membres du réseau qui prennent peur et qui se protègent. Alors ils déposent des trucs chez des avocats, ou alors ils se rendent à la police spontanément pour, c'est ce qu'on appelle les repentis, et que normalement l'intelligence d'un réseau, c'est qu'on protège. Rappelez-vous l'affaire du trou, il est protégé jusqu'au bout. Voyez Maître Jakubowicz voler au secours du fameux Lelandais. C'est qu'en général, si tu tues les autres ont peur d'y passer aussi et se mettent à table ou constituent des dossiers chez des avocats, etc. Donc moi, c'est en fonction de ce genre d'analyse, parce que finalement, les mafias ne font qu'imiter ce genre de réseau en réalité. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas comme la mafia, c'est que la mafia, finalement, c'est des réseaux de puissance du sous-prolétariat qui s'appuient au départ, comme ils ont pas d'argent, sur les trucs qui s'appellent le décollage, qui est la prostitution et la drogue, hein, parce que c'est comme ça que tu décolles dans le pognon, après tu vas vers l'immobilier et la politique, etc. Et c'est pour ça que moi je me dis que peut-être quand on nous dit il s'est pas suicidé, on l'a assassiné, c'est pour qu'on pense pas au troisième terme, c'est on l'a exfiltré. Et rappelez-vous Maxwell, puisque le précédent c'est Maxwell, Maxwell tombe de son yacht, hein. Alors on dit il est pas tombé, on l'a tué, mais peut-être aussi qu'il a pu être emmené sur une voie d'être rapide pour le sortir du jeu, parce qu'à un moment donné ce genre de type, le mieux c'est de les sortir du jeu complètement, hein. Mais si on les tue, les autres ont la trouille, parce qu'on est quand même dans des réseaux des maillages.
Surtout là qu'il y a le service secret, je veux dire le Maxwell travaillait pour le Mossad, donc effectivement c'est une hypothèse tout à fait.
Oui, puis en général, excusez-moi, les juifs ne se tuent pas trop entre eux quand même, hein.
Tout à fait.
Parce qu'il y a quand même une forte connotation judéo-sioniste dans ce qu'on découvre de ce réseau qu'on peut qualifier de nouvel ordre mondial en action ou d'état profond mondial.
Hein. C'est une espèce de moi ça me fait penser au film de Kubrick, son dernier film.
Eyes Wide Shut.
C'est vraiment ça quoi, la réunion à la fin, les mecs qui sont en train d'avoir des gamines. Dans les mails justement d'Epstein, on a, je crois que c'est Brunet, là, ou comment il s'appelle déjà ?
Brunet, Ben Chamoul.
Ben Chamoul, qui explique j'ai récupéré deux gamines de 12 ans. Waouh.
Qui lui offre pour son anniversaire.
Pour son anniversaire. Et là, on est bien dans l'idée d'esclaves sexuels, où l'île s'appelle l'île aux esclaves. Et pour ceux qui s'intéressent au projet MK Ultra, au projet Monarch, et aux révélations qui sont dans un livre de Cathy O'Brien et de Mark Phillips, hein, c'est-à-dire une ancienne esclave sexuelle qui était mannequin présidentiel aux États-Unis.
Conspirationniste.
Et oui, là, on est vraiment dans le 9e cercle de l'enfer. Mais il y a quand même quand on s'intéresse au sujet, il y a tout. Alors il faut y aller étape par étape, tellement c'est monstrueux, parce que là on voit qu'il y a convergence du nouvel ordre mondial au sens économico-financier, du sionisme international, d'une certaine forme de judaïsme qui confine au satanisme. Alors, on est réellement là-dedans.
Pour bien repréciser, je vais citer quelques noms de gens impliqués et cités pour l'instant dans l'affaire, hein. On va pas tous les citer parce que c'est vraiment énorme, donc là je vous renvoie à fait et documents.
C'est un peu la liste de Schindler, hein.
Voilà, c'est exactement ça.
Magnifique. Alors, le prince Andrew, en ce moment, dans la presse anglaise, il y a un déchaînement, le Daily Mail.
Ouais, mais comme par hasard, c'est le seul chrétien de la bande.
Le prince Andrew est dans le caca, le plus total.
Les Rothschild sont cités. Là, je vois José Maria Aznar apparaît via son gendre Alejandro Agag, qui est dans les listes. On voit Edgar Bronfman Jr. On va rappeler qui sont les Bronfman. Les Bronfman ont fait fortune au moment de la prohibition dans l'alcool frelaté. Et puis ensuite, ils se sont institutionnalisés. C'est devenu, 6 grammes. Donc, vous regardez
le supermarché. Société de distribution.
Voilà, de société
logistique de distribution.
D'alcool.
Ils sont à la tête du Congrès juif mondial aussi.
Et donc Edgar Bronfman était président du Congrès juif mondial. Donc, on est au sommet du pouvoir juif institutionnel.
Il y a Bill Gates aussi.
Voilà.
Mais c'est pas rien, ça.
Attends, il y a le vice-président de Goldman Sachs. On a un vice-président de Goldman Sachs. Alors, il y a évidemment beaucoup d'acteurs, de chanteurs. Phil Collins, Dustin Hoffman, Michael Jackson, Mick Jagger. Les Kennedy sont cités. Ted Kennedy, Woody Allen. Alors là, c'est très intéressant
Woody
parce
Allen,
qu'on apprend. Il y a quand même une clé, c'est que le film Manhattan, qui est soi-disant son chef-d'œuvre, quoi.
Le Bergman new-yorkais.
Où il sort avec une jeune fille, en fait, parce que c'est ça le scénario. En fait, cette liaison a été inspirée par la liaison qu'il a eue avec une nana qui est ensuite devenue une rabatteuse pour Epstein. D'accord. Donc là, on l'apprend à l'occasion de l'affaire Epstein. Donc le styliste, alors il y a énormément de stylistes, tout est lié à la mode, c'est pour ça qu'il y a un gros tropisme aussi milanais. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Milan, la famille Agnelli, évidemment, est impliquée, donc on retrouve comme styliste...
Les deux grands spots de la mode, donc de la haute couture, donc des agences de mannequins, c'est-à-dire de très jeunes filles, d'origine pauvre, jolie et isolée, c'est Milan et c'est d'abord Paris. Et n'oublie pas que là, le cœur atomique du mannequinat, c'est Paris. C'est pour ça qu'Epstein est très lié aux agences de mannequins. Il y a le fameux, justement, Brunet, mais il y a aussi Haddad, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est les agences de mannequins des années 80, le moment où on a fait des mannequins des stars d'ailleurs, hein, ça devait avoir un sens. Et puis il y a l'affaire Karen Mulder, n'oublions pas, rappelons-nous, qui à un moment donné dit qu'elle a été violée dans des cérémonies, on la fout en hôpital psychiatrique, on découvre qu'elle a sans doute un passé de victime pédophile familiale, et là on est exactement dans ce que décrit Cathy O'Brien sur les esclaves sexuels qui sont programmés comme avec du MK Ultra, c'est-à-dire cloisonnement de leur cerveau pour qu'elles soient dans l'amnésie, parce que quand on fait baiser par des sommités des femmes dans des rituels, le problème c'est la mémoire et le témoignage. Donc en fait, la programmation MK Ultra, il faut comprendre que le but c'est l'amnésie, c'est-à-dire que des filles sont envoyées dans des partouzes avec des élites mondialistes et elles ne doivent se souvenir de rien en sortant. Et ça c'est le projet Monarch et c'est le gros travail que fait la CIA avec d'ailleurs des chercheurs en psychiatrie dès les années 60 pour arriver à faire des robots amnésiques pour l'assassinat. On se rappelle comment a été assassiné le frère Kennedy, hein? Ou pour les esclaves sexuels. Ça, c'est toute une chose qu'il faut découvrir en lisant notamment, je le dis, le bouquin de témoignages de Cathy O'Brien et de Mark Phillips qui s'appelle « Le monde en pleine transformation », je crois. C'est le livre « L'Amérique en pleine transformation ». Le livre est moche et le titre est un peu débile, mais je peux vous garantir que quand vous lisez ça, vous connectez des tas de choses qui ont à voir avec l'affaire Epstein, et vous comprenez aussi le film Eyes Wide Shut de Kubrick, et vous comprenez d'ailleurs le choix de Nicole Kidman comme actrice avec son mari, d'ailleurs dans la vraie vie, qui est le petit Tom Cruise, car je découvre en cherchant moi que Nicole Kidman est la fille d'un psychiatre australien qui est mort étrangement avant son procès public, et qui était impliqué dans des affaires de pédophilie, et qui était considéré par certains comme le grand Manitou de la pédophilie sataniste en Australie. Je sais pas si vous voyez les connexions, ça va très très loin.
Alors, il faut rappeler qu'il est mort d'une chute dans sa chambre d'hôtel.
Oui, ben il y a des gens qui tombent par la fenêtre souvent. Je rappelle que pour les assassinats improuvables, le meilleur assassinat improuvable est la défenestration. On peut jamais prouver que t'es pas tombé tout seul par ta fenêtre. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui tombent
Le nombre d'agents de la DGSE qui sont morts par défenestration.
Quand on te donne rendez-vous au 10e étage quelque part, tu n'y vas pas,
hein. En fermant ses volets.
Alors, pour continuer sur les personnalités qui apparaissent comme ça pêle-mêle, Michael Bloomberg, à la tête, donc ancien maire de New York, et à la tête de la principale agence de presse financière, c'est énorme. Évidemment, Elie Wiesel. Alors, Elie Wiesel, dans la hiérarchie, était au-dessus parce qu'il était prix Nobel, alors qu'Epstein était philanthrope. Parce que là aussi, c'est l'occasion de redécouvrir la vraie hiérarchie du pouvoir. Parce que à la télé,
on a des tas de témoignages contre justement Elie Wiesel et même en France l'ancien ministre de l'Intérieur de Mitterrand, qui ont été dénoncés comme harceleurs sexuels, même lors de cérémonies publiques où ils se mettaient ils se croyaient pouvoir mettre la main au valseur de gamines, des choses assez délirantes. Comment il s'appelait le ministre de l'Intérieur qui a sorti l'affaire
Jox.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit ces élites communautaires qui sont systématiquement montrées comme des délinquants sexuels de haut vol avec un sentiment d'impunité total, hein. Rappelez-vous comment Jox a été à un moment donné balancé par une gamine dont le père avait été, je crois, ministre ou député, hein, et c'est systématiquement étouffé. Et une fois j'étais allé au tribunal, j'avais découvert que Jox, qui était à la retraite, s'occupait à l'intérieur de la justice de défense d'enfants en difficulté.
D'accord.
Ça sent bon, ça, encore, hein.
Oui, tout à fait, oui.
Oui, parce que là, je vais finir là-dessus. Il semblerait quand même, quand j'étudie tout ça, et j'étudie depuis des années, vous le savez, que le caviar de la sexualité d'élite soit la pédophilie, hein. C'est à un moment donné, quand on est au top du top, on ne baisse plus avec des femmes, on ne baisse plus avec des adultes, on ne fait que violer et torturer des enfants en bas âge, hein. C'est ce qu'on découvre quand on étudie vraiment la question jusqu'au
bout. Mais c'est quoi ce truc? Ça leur donne l'illusion de l'immortalité, de vivre plus longtemps? C'est quoi
le truc? Il y a le compromat, déjà.
Il y a le compromat, il y a le fait de la transgression, il faut aller toujours plus loin. Au début, c'est la partouze, après c'est le sadomasochisme, et à la fin c'est le viol et le meurtre d'enfants. Et il y a aussi le satanisme, c'est-à-dire les religions inversées. N'oublions pas qu'à l'origine des religions primitives, il y a le sacrifice humain.
Ah bah, justement, dans l'île.
Et notamment dans le judaïsme.
Dans l'île d'Epstein, il y avait un dôme, il y avait une sorte d'église, on va dire, qui a été démontée d'ailleurs.
T'as vu les couleurs? Elles sont comme le drapeau israélien, blanc et bleu à rayures.
Il y avait quelque chose d'encore plus intéressant, c'est-à-dire que le FBI a fait une descente dans cette île pour saisir tout ce qu'il y avait à saisir, mais le FBI s'y est pris un mois plus tard.
Oui, à mon avis, il y a du charnier qui a dû être nettoyé.
Et l'appartement, c'est l'avenue Hoche ou l'avenue Hoche, je sais plus, je crois que c'est Foch.
C'est Foch
et Brune. L'appartement était vidé, hein.
Le ménage est fait,
c'est tout est absolument nettoyé. Et je vais revenir là-dessus parce que là on a les photos. Alors c'est dommage qu'on puisse pas les voir, mais je vous le montre. Voilà, c'est les deux fameuses photos là qui sont sorties dans le Daily Mail et le New York Post. Hein, je pense que tu l'as vu. Donc c'est la fille Maxwell, donc c'est Ghislaine Maxwell, donc que tout le monde cherche hein, après l'affaire Epstein. Et donc elle pose avec un livre qui justement parle des agents de la CIA qui ont réussi à survivre dans des pays un peu difficiles, enfin dans des circonstances absolument.
Et c'est un message qui est envoyé, ça.
C'est clairement un message qui est envoyé à l'ensemble de la communauté de renseignement.
Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le message qui est envoyé. Sachez bien, vous du réseau, que nous avons exfiltré Epstein et que donc nous protégeons nos membres.
Agents, ouais.
Parce que pour pas que les autres se mettent à table en pensant qu'ils vont tous y passer, tu vois. Ça, tout ça peut corroborer cette idée de l'exfiltration, tu vois. Parce qu'il faut à un moment donné envoyer le message hein, qu'il a été exfiltré pour
Alors,
les initiés.
C'est d'autant plus intéressant que le FBI, soi-disant, la recherche. Et là, elle pose dans un, à la terrasse d'un McDo ou d'un, ouais, enfin, on va dire un McDo, donc dans un quartier pourri, en montrant ce livre. C'est très très intéressant et on voit d'ailleurs que la photo, la deuxième photo a été, ils ont même eu le temps de la photoshopper parce que je pense que Ghislaine Maxwell a exigé que ses rides soient enlevées puisqu'on voit la photo originale qui est juste à côté.
Donc ça c'est vraiment un message envoyé aux initiés.
C'est très clair, voilà. Il y a un maquillage qui est fait. Il faut bien regarder ces deux photos.
Alors Alain Soral a commencé à l'évoquer, il y a un tropisme autour de la psychiatrie.
Psychiatrie et satanisme, hein, les deux. Il y a le côté rationnel et le côté, irrationnel. Et ça se combine très bien.
Et qu'on voit parfaitement dans le témoignage donc, de Cathy O'Brien et d'autres témoignages suite à l'affaire Epstein ont commencé à fleurir sur Internet. On a vu, par exemple, la fille d'un grand spécialiste de l'autisme au Québec commencer à raconter comment elle avait été abusée dès son plus jeune âge et programmée précisément pour devenir une prostituée et que cette programmation comme prostituée avait été un moyen pour son père de grimper socialement. Exactement, là ça renvoie à Rosemary's Baby où l'enfant qui va naître, donc l'enfant du diable, est vendu en fait pour favoriser la carrière du père qui est acteur.
Et là pour qu'on comprenne bien, les recherches faites aux États-Unis par l'armée conjointement avec des psychiatres qui étaient le projet Monarch et MK Ultra ont compris, parce que c'est un travail scientifique, que les individus qui étaient le plus réceptifs à la manipulation, à la programmation et au cloisonnement du cerveau étaient les enfants victimes de pédophilie familiale. Parce qu'en fait, quand vous êtes violé à 2 ans par votre père, c'est tellement violent et tellement insupportable et tellement inassumable que ça provoque un cloisonnement du cerveau. Et que c'est là-dessus que travaille le haut espionnage américain, c'est de produire des messages ou de produire des acteurs pour des assassinats qu'on télécommande avec déclenchement de mots-clés et après qu'on remet dans l'amnésie totale. Hein. Il y a un film américain d'ailleurs grand public qui s'appelle Complot avec Mel Gibson comme acteur
et Julia Roberts
qui parle de ça et qui valide ça. Et tout ça, c'est pas de la rigolade puisque l'État américain a reconnu qu'ils avaient fait ce genre de recherche et qu'ils avaient fait ce genre de manipulation dans les années 60-70, s'en est excusé. Parce qu'il y a eu des scandales, et a dit qu'ils avaient arrêté. Or, il est certain qu'ils n'ont pas arrêté, ils ont même encore progressé. Et donc, pour revenir à ton histoire, on voit souvent que des personnages qu'on retrouve comme esclaves sexuels et qui sont pris en charge par le Nouvel Ordre Mondial sont achetés et détectés chez des familles de pédophiles de père en fils, à qui on propose soit la prison, parce qu'on les attrape en général pour diffusion de matériel pédophile, et on les intègre au projet en achetant leurs enfants. Et ils font même de l'élevage de gosses. Oh. La famille de Cathy O'Brien, elle a 7 ou 8 frères et sœurs qui sont tous dedans.
Hein. D'ailleurs, tu as vu que Jeffrey Epstein
comprend ce que tu viens de nous montrer.
Non, mais justement, voulait dupliquer son ADN dans un élevage d'enfants.
Attends, on va y revenir. Je vais expliquer exactement ce que je viens de montrer. Alors, donc ça, c'était une double page du Daily Mail. Donc, et là, on a la photo donc de la fille de l'ancien premier ministre australien. Hein, girl with Andrew at Epstein home is daughter of Australian ex-PM. Voilà. Donc, on voit bien effectivement, ça confirme un peu tout ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que à la lueur de ce que vous venez de dire, on pourrait comprendre pourquoi il est devenu Premier ministre. Bon, je dis pas que c'est ça, mais on voit bien, effectivement, dans la liste des carnets d'adresses et toutes les gamines qui sont là, mais c'est absolument surréaliste. On voit notamment cette photo, il y a la mannequin Campbell, Naomi, je crois Naomi que c'est Campbell. Naomi Campbell, et on voit la petite... celle qui a porté plainte contre lui une nouvelle fois, on voit bien que c'est une gamine de 12 ans qui est un peu perdue, quoi. Elle est là dans une espèce de super soirée, genre...
N'oublie pas que les mannequins, etc., sont des très jolies filles, enfants de pauvres, parce que les enfants de riches ne font pas mannequins, qui se retrouvent isolés de leur famille à l'étranger, souvent c'est des Suédoises ou des Californiennes ou des Ploucas, ou même la femme de Trump, d'ailleurs, hein, qui est passée par là aussi.
On sait pas. C'est Epstein qui lui a présenté, là, pour le coup.
Donc, elle est peut-être été passé par là aussi, et que à un moment donné, on prend le contrôle, on les programme, et elles servent, c'est ce qu'on voit dans le film Eyes Wide Shut, c'est ce dont parlait Karen Mulder, et comme par hasard, là, on peut voir le lien avec Paris, puisque Paris, c'est les agences de mannequins au niveau mondial, hein, faut pas oublier, Epstein venait faire ses courses à Paris, et on peut peut-être mieux comprendre le lien de Pierre Berger, qui malgré, bien qu'il soit mort, continue à me harceler, à me poursuivre par sa veuve, où lui, on sait qu'il avait un château où il organisait des tortures sadomaso en Normandie, il était un des papes de la haute couture, qui dit haute couture dit agence de mannequins, il est impliqué dans la mort du pasteur Doucet, qui était un prêtre défroqué, protestant d'ailleurs, hein, je crois, qui organisait, on le sait, des partouzes pédophiles et avec des photos et du chantage. On sait que ce pasteur Doucet a été retrouvé mort dans la forêt après qu'il ait été arrêté par des policiers. On se doute, il y a des révélations là-dessus. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai eu des gros ennuis et que je continue à être que mon livre Dialogue désaccordé a été interdit à la demande de Pierre Berger. Hein, j'ai été condamné à 17 000 euros et je suis encore poursuivi en ce moment même par sa veuve, hein, puisqu'il a trouvé le moyen de se marier avec un homme, sa veuve qui d'ailleurs anime en dehors d'être un paysagiste de
quand tu dis sa veuve, mondiale, tu parles de qui?
Bah, c'est un homme qui l'a épousé, c'est
ah,
sa
oui,
veuve.
D'accord. Hein,
voilà, c'est ce que je comprends. Voilà, sa veuve. C'est comme ça qu'on dit.
Je suis pas encore tout à fait.
C'est la femme de et sa veuve est un paysagiste de niveau mondial, donc il fait des jardins pour les très riches, et il anime une association pour initier les petits enfants à la découverte des jardins. Il y a toujours le volet ami de la petite enfance, hein, bienfaiteur de la petite enfance.
Alors, oui, il y a un nombre incalculable de gens cités dans les carnets qui justement ont des œuvres pour l'enfance, caritative.
Oh, ben c'est toujours le bon truc. Hein. D'ailleurs, si tu regardes bien dans la presse américaine et anglo-saxonne, parce qu'eux, ils en parlent ouvertement, le nombre de profs et de maîtresses ou de maîtres qui sont envoyés en prison parce qu'ils ont séduit des gamins de 7 ans, 6 ans, etc. C'est absolument hallucinant. Enfin bon, bref, là, je reviens là sur cette une, pardon. Alors là, on voit là, cette fameuse photo dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit Trump, on voit Melania qui est toute jeune, on voit donc Ghislaine Maxwell, et en fond, on voit Jeffrey Epstein. Et ça, c'est une photo, alors c'est une photo qui est faite, alors je crois que c'est faite justement chez Trump, où...
À Mar-a-Lago, avant qu'il le chasse.
Avant qu'il le chasse.
On comprend bien que Trump...
Trump a vu et a refusé.
C'est le principe des cercles de l'enfer. C'est qu'au début, on t'invite à des soirées avec des filles. Après, c'est un peu de la partouze. Après, il y a un peu de SM. Après, elles sont de plus en plus jeunes. Et puis, à un moment donné, il y a ceux qui vont jusqu'au dernier cercle de l'enfer et ceux qui refusent d'y aller. Et je pense que Trump est un mec normal qui aime les belles femmes.
Absolument.
Un baiser de belles femmes. Et la grosse différence se fait entre un mec en baiser de bonnes femmes et pédophile et pédocriminel. Parce qu'à chaque fois, quand moi j'étudie ça, il y a à la fois du psychiatre et du sataniste. Donc, tu vois, il y a du côté recherche scientifique sérieuse et habillage anti-religieux, et systématiquement il y a torture, n'oubliez pas, il y a sexualité ultra-violente et pédophilie. Hein. Le caviar, je dis, de la sexualité du Nouvel Ordre Mondial, tel que je l'ai compris, c'est la violence sur les enfants, viol et assassinat. Hein. Voilà, donc t'imagines bien qu'il faut couvrir tout ça, ça veut dire trafic de gosses. Ça demande de la logistique, hein, tout ça, parce que c'est dangereux.
Alors justement, puisque tu parles de logistique, là, on a la photo donc de Jean-Luc Brunel. Rappelle-moi son nom déjà.
Ben Chamoul.
Et donc Ghislaine Maxwell. Et donc les deux en fait étaient ensemble, surtout Ghislaine Maxwell, pour recruter d'autres filles. Et il y a eu un grand papier dans le New York Times il y a 2-3 jours, dans lequel on apprend que en fait Ghislaine Maxwell avait fait le tour de tous les studios de danse Où on apprend à danser pour Broadway, etc., pour recruter des gamines, justement, de 12-13. Et en fait, le truc d'Epstein, c'était de faire venir ses apprentis ballerines à faire des grands écarts devant lui, donc c'est le fantasme des filles, elles, qui se contorsionnent, etc. Et donc il se masturbait devant elles, voilà, en les regardant.
Ça, c'est ce à quoi on a accès, parce qu'à mon avis, il peut y avoir bien pire encore.
Non, mais l'avantage avec les Anglo-Saxons,
sur France 5, c'est que des massages.
Voilà, exactement. On a droit qu'à des massages. Hein,
de Epstein.
Epstein, hein, et pas d'Epstein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Ghislaine Maxwell, ensuite, faisait chanter ses gamines et les obligeait à recruter d'autres gamines à venir chez Epstein, à faire des massages.
Alors ça, quand tu t'intéresses à la pédocriminalité, tu comprends que c'est comme c'est la métaphore des vampires, c'est que les meilleurs recruteurs pédophilie, laisse-moi finir le raisonnement, un enfant violé reproduit cette sexualité violée. Et en général, c'est dynastique, la pédophilie. C'est-à-dire que le grand-père a été abusé, on ne sait pas trop pourquoi, il abuse le fils, qui abuse l'enfant, etc. Malheureusement, je pense que c'est le sens profond du vampire. D'ailleurs, ça a beaucoup intéressé Polanski, rappelle-toi, le bal des vampires, oui. Rosemary's Baby, etc. C'est que quand tu as été un enfant violé, tu reproduis cette sexualité parce que tu n'en as pas connu d'autres. Et donc souvent, les anciens enfants violés, quand ils arrivent à l'adolescence, deviennent des recruteurs. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés au réseau comme recruteurs. Et ça, tu le vois d'ailleurs dans l'affaire de Zandvoort, dans l'affaire Dutroux, etc. C'est ça qui est tragique, le côté, quand tu es mordu par le vampire, si tu t'en sors pas assez vite, c'est ça le truc, tu deviens vampire toi-même. Et donc, effectivement, tu vois beaucoup d'anciens enfants abusés par ces réseaux qui, arrivés à l'âge post-adolescent, reste dans le réseau comme rabatteur-recruteur.
Alors, c'est très très intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça illustre parfaitement un film qui s'appelle La Dangerous Method, donc qui raconte en fait la rencontre entre Freud et Jung. Et en fait,
vu le film, ouais.
Ouais, voilà. Et les deux montrent en fait techniquement que nos premières pulsions sexuelles, hein, donc si, eh bien, on va toujours, on va en adulte, on va effectivement répéter la même scène, voilà. Donc, si par exemple t'es violé à 2 ans, 3 ans, etc., eh bien, tu vas recréer la même chose.
Alors là, justement, c'est le moment de parler du travail d'un sexologue français qui s'appelle Patrick Dupuis. J'espère qu'on l'invitera un jour, qui d'ailleurs fait une analyse du mensonge de Freud sur ce qu'on appelle l'Oedipe, qui a d'ailleurs été faite, je pense, par Onfray aussi, c'est qu'en réalité, Freud a découvert la pédophilie qui provoquait les névroses et l'hystérie, c'est-à-dire qu'en général, c'est les patientes qu'il avait été abusées par leur père.
Oui,
et comme il a aussi réalisé que ça lui était arrivé dans sa propre famille, il a inversé sa théorie, alors qu'il était sur la théorie de, en fait, les psychopathologies adultes venaient en général d'enfants violés, c'était des enfants violés tout simplement, en général, le père qui viole sa fille, etc., parce que la pédophilie familiale est très très répandue, contrairement à ce qu'on croit, et Freud, ne pouvant pas assumer parce qu'il était impliqué familialement, a inversé la théorie en disant les enfants rêvent de coucher avec leurs parents. Et c'est pour ça qu'ils développent des névroses. Hein. C'est la théorie de Patrice Dupuis. On a une très belle interview ici qu'il avait donnée à Nexus. Et il dit, tout le freudisme a pour but de masquer par une inversion qu'en réalité, beaucoup de pathologies adultes viennent du fait de traumatismes sexuels d'enfance, mais pas d'enfants qui rêvent de tuer leur père et de coucher avec l'autre parent. Ça, c'est la théorie de l'Oedipe. Mais l'inverse, d'enfants qui ont été violés par leurs parents. Hein, voilà. Et il dit bien, Freud a menti, a inversé parce qu'il voulait se couvrir et même couvrir sa communauté. Car là, on pourrait citer les livres de notre ami Hervé Ryssen. Il y a un lien intrinsèque entre la question de la mère abusive. D'ailleurs, je m'amusais à dire la mère abusive produit trois pathologies. L'homosexualité, la pédophilie et le judaïsme. Hein. Il y a un lien intrinsèque, il suffit de lire.
Il y a d'innombrables témoignages.
Voilà, que la pédophilie est profondément ancrée dans le judaïsme. Hein. Voilà.
Vincent, tu souhaitais intervenir?
Non, je voulais rebondir. Tout à l'heure, on parlait de leur proximité avec les enfants. Moi, je pense qu'il faut pas oublier l'humanitaire. Parce que t'as pas de philanthropie.
Là, il y a énormément.
L'humanitaire,
il y a deux choses. C'est l'humanitaire, c'est le repère des pédophiles et le repère des services secrets.
C'est vrai. Que ce soit religieux ou laïque. Hein.
Et ça relie, donc ça relie, en fait, voilà.
Là, par exemple, je cite, dans les carnets d'Epstein, tu trouves un financier qui s'appelle Arpad Busson. Alors, j'ai regardé la famille, c'est absolument énorme. Donc, il dirige une banque, si tu veux, dans la finance à Londres. Il est fondateur de l'offre philanthropique pour les enfants qui s'appelle Absolute Return for Kids. Donc, c'est soutenu par les Clinton et la famille royale britannique. C'est actif en Bulgarie, en Roumanie, en Inde. Il est membre de l'Elton John AIDS Foundation. Foundation, du Theodora Children Trust, et lui, il a été en couple avec l'actrice Uma Thurman. Donc on retrouve toujours ces relations incestueuses, c'est le cas de le dire, entre finance, monde du spectacle, politique et humanitaire.
Ça, c'est le volet qu'il faut pas négliger, c'est le volet show business. C'est vrai que c'est très souvent couplé, le show business et ces réseaux plus ou moins pédophiles, c'est-à-dire que ces enfants qui veulent devenir des vedettes et qui ont des agents, les trois quarts des agents sont des délinquants sexuels, on le découvre, et en général, ils deviennent stars, d'où les clips très étranges, les vidéoclips très étranges de certaines vedettes, où il y a énormément de symboles maçonniques, satanistes et pédophiles, le papillon, l'œil masqué, les horloges qui donnent pas la même heure, les énormes yeux ouverts, tout ça, tout ça c'est du MK Ultra et du Monarch, hein. Et rappelons-nous le scandale en Angleterre de Seville, le fameux animateur d'émission Top of the Pop, hein, qui après sa mort, on a découvert que c'était un des plus grands pédocriminels anglais, et il était un bienfaiteur de l'enfance et des hôpitaux. Oh bah, et on découvrait que sa pratique sexuelle terminale, c'était d'aller dans les hôpitaux dont il était le bienfaiteur, torturer et violer des vieillards grabataires fin de vie.
Ah oh, c'est dégueulasse.
Non mais il y a pas de là, il y a pas de limite. Hein.
Oh
non,
oui, il y a pas de limite.
Ça s'appelle la transgression. Et n'oublie pas que ça a beaucoup à voir avec l'idéologie gauchiste. Et quand on parlait tout à l'heure d'un certain psychiatre qui était passé de France au Canada, je rappelle que dans les années 60, il y a eu des scandales pédophiles très importants, puisque l'ultra-gauche était très pédophile, tu sais, pour se libérer des interdits sexuels judéo-chrétiens au nom de la liberté sexuelle, etc. Il y a eu le scandale Pierre Gay, le scandale de l'antipsychiatrie, un certain René Scherrer qui restait prof à Paris 8 jusqu'au bout, alors qu'il s'était un militant de la pédophilie. Il y avait toute une pédophilie d'extrême-gauche et d'extrême-droite, rappelle-toi, avec Gay France les bandes dessinées Alix, tu sais, ce petit...
Oui, Jacques Martin.
Oui, voilà, Jacques Martin.
Alix, c'était la BD de tous les homos, c'est connu.
Oui. Et puis des pédophiles, hein, parce que homo, c'est du même âge ou post-pubère. Oui. Là, quand on est dans le pré-pubère, ça fait le pédophile. Hein. Et tout ça, quand à un moment donné, ces gens-là, d'ailleurs, qui ont eu des gros ennuis, Pierre Gay, antipsychiatrie, ils sont partis au Québec.
Voilà. Hein? Alors la France semble être vraiment, quand même, malgré tout, hein, un paradis des pédophiles. Ça transparaît au travers de l'affaire Epstein, ou en tout cas pour un réseau de pédophilie international, la France semble être un passage obligé. Et Pierre.
Ah ben, moi je voudrais quand même revenir sur la partie service de renseignement, parce que il y a quand même dans tout ça, il y a quand même le Mossad, il faut peut-être pas l'oublier, hein. Je veux dire là par exemple, alors je sais plus quel journal c'est, mais là on a le fameux graphique de la cellule dans laquelle se trouvait monsieur Epstein, et les lumières n'étaient jamais éteintes, il y avait des caméras, il avait une petite fenêtre, les gardes étaient censés regarder toutes les demi-heures, enfin bon bref, et comme par hasard, là, ce jour-là, toutes les caméras étaient éteintes, ce qui me rappelle, pardonnez-moi, je fais
la mort de Lady Di peut-être.
Non, la mort du banquier là, de la Montepaschi, hein, parce que là aussi, pour tuer un mec dans une banque où il y a 25 000 caméras, c'est quand même pas évident. Et là aussi, les caméras sont tombées en panne. Donc on voit bien l'œuvre d'un grand service quand même. Il faut pas l'oublier.
Sur les services, il y a aussi un fait que peu de gens ont relevé, l'avion qui servait à Jeffrey Epstein,
son avion privé,
avait un numéro d'immatriculation qui correspond donc à une société qui s'appelle DynCorp, donc c'est une société privée de fret dont le principal client est l'État américain, la CIA, faut le dire, et donc une société qui a disparu suite à un scandale de trafic d'êtres humains et trafic d'armes pendant les guerres balkaniques.
Oh putain, c'est fou, on les retrouve tous.
Il a eu à un moment donné, et c'est très, très drôle parce que ça correspond à l'époque du 11 septembre, ça correspond à l'époque de la guerre en Irak, ça correspond à toutes ces années Bush, hein, et toute la haute hiérarchie de ces réseaux-là apparaît. On voit Edmond Safra, on voit Henry Kissinger, on voit Tony Blair, on voit la famille Aznar, on voit la famille Rothschild, je le répète parce que c'est quand même important de comprendre qui est visé, et on voit que ce réseau a été en pleine bourre au moment où il y a eu le 11 septembre, plus la guerre en Irak, c'est la séquence néoconservateur.
L'accélération du processus du
Et je rajoute, comme on le disait dans notre première partie de notre émission, le réseau néoconservateur s'est ensuite déplacé, à partir de 2007 et l'élection de Sarkozy, exclusivement, quasi exclusivement sur la France, on l'a vu avec la guerre en Libye. Donc c'est pour ça que l'affaire Epstein en France, si vraiment Emmanuel Macron veut lutter contre l'État profond, bah, qu'il appuie sur le bouton et qu'il commence à tirer les fils et à exposer ces gens-là comme est en train de le faire Donald Trump et comme l'a fait dans une certaine mesure Poutine il y a déjà une dizaine d'années.
Pour l'instant, il n'y a que nous qui le faisons. Hein.
Est-ce qu'on peut penser légitimement que la DCRI ou la DGSE était aveugle sur le système Epstein? Il y a eu tous ces allers-retours.
Je pense qu'il y a un certain niveau, tout le monde à un certain niveau, tout le monde sait. Quand même, hein. C'est comme moi, excuse-moi, pour une affaire Epstein du pauvre, l'affaire Ramadan, qui est en train de ressortir aujourd'hui étrangement, moi je savais tout depuis des années et j'étais étonné que ça ne sorte pas. En fait, si moi je sais, c'est que les services français savent, c'est que le Mossad sait. Et à un moment donné, c'est un problème d'initiation, c'est qu'à un certain niveau d'initié, tout le monde sait. Je fais remarquer quand même que quand on prend les deux termes sur l'affaire Epstein, qu'on essaye quand même de nous faire croire au niveau médiatique que c'est des mecs qui baisaient des belles jeunes femmes. Hein.
Oui, mais là, j'ai abaissé au fur et à mesure.
Mais simplement sémantiquement, Lolita Express, ça renvoie à Nabokov Lolita.
Exactement.
C'est une petite fille, hein, la petite fille de sa maman. Ouais. Et l'île aux esclaves, ça renvoie pas à des filles qu'on paye pour baiser, c'est des esclaves sexuels. Et là, on est dans le projet Monarque, hein, donc c'est Lolita esclave. Hein.
Rappelons au lecteur que le livre de Nabokov, c'est un homme qui est tombé fou amoureux d'une gamine de 10 ans, je crois, ou 12 ans.
Elle est prépubère, hein,
on va dire 10 ans, allez. Et que pour la séduire, en fait, il séduit sa mère. Hein, donc c'est là où le livre est intéressant. Il séduit la mère pour être avec la gamine. Voilà. Donc et ça renvoie effectivement là on voit l'affaire Guylaine, c'est-à-dire que Guylaine c'est la mère, et Epstein le couple Epstein Guylaine Maxwell et les deux. Et surtout Guylaine, elle va chercher les gamines de 10 ans, de 12 ans, et ils font des partouts ensemble.
Dans la pédophilie familiale, qui est là où on va chercher, qui sont souvent en plus des pauvres, hein. Ça va souvent avoir avec le sous-prolétaire. Le père est pédophile, le grand-père l'était, donc il était déjà violé, et il épouse une fille qui est aussi dans une famille pédophile. C'est-à-dire que là, tout le monde est pédophile. Le père, la mère, l'oncle, le grand-père, etc. Et tous les gosses sont violés, et tous les gosses restent dans le circuit, et deviennent pédophiles eux-mêmes, rabatteurs, recruteurs, etc.
C'est monté socialement ce genre de famille.
Exactement, puisque le père O'Brien était un type sans diplôme qui finit à la fin à un haut niveau social. Trump, on cite systématiquement Clinton hein, dans les mémoires de Cathy O'Brien. Il est très haut placé. Et aussi, on a oublié un volet, trafic de drogue, cocaïne. Cocaïne qui permet de financer les opérations secrètes hors financement d'État, où systématiquement, esclaves sexuels, pédophilie, show business et cocaïne, parce qu'on se sert des mecs du show business pour faire le trafic de drogue secret. Ça, c'est très bien montré dans le bouquin de Cathy O'Brien et Marx Philippe. C'est qu'ils passent leur temps à transporter des grosses quantités de cocaïne. Rappelez-vous que Clinton est très impliqué au niveau de l'Arkansas dans le trafic de cocaïne, c'est pratiquement connu, et c'est ce qui permet de financer les opérations secrètes américaines, puisque il n'y a pas de budget. Et alors, ils disent bien que en fait, l'État américain lutte non pas contre le trafic de cocaïne, mais contre les concurrents et ceux qui ne veulent pas travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'à un moment donné tombe le général Noriega. Le général Noriega, parce qu'en fait, il dit plus strictement, il fait aussi son petit trafic à lui dans son coin. Et il est bien dit que les plus grands trafiquants de cocaïne du monde sont l'État profond américain et que ça leur sert à financer toutes leurs opérations secrètes. Et rappelons-nous l'étrange réaction qu'ils ont eue face aux talibans en Afghanistan. Quand ils ont fait tomber le régime taliban, ils ont replanté tout le pavot que les talibans avaient arraché pour remettre en place, c'est la base de l'héroïne, hein, c'est l'ergot de seigle, et que tout ça passait par des camions de l'armée américaine qui allait jusqu'au Kosovo, où c'était pris en charge par la mafia albanaise, qui est entre autres la grande spécialiste du trafic d'êtres humains dans les mafias. Hein. Voilà.
Donc là, vous voyez un peu. Et comme tout ça est lié, un ancien diplomate français qui était ambassadeur en Afghanistan est parti d'Afghanistan avec des affaires de pédophilie au cul.
Et puis Kouchner se retrouve gauleiter du Kosovo. Et puis on a des histoires de trafic d'organes, rappelons-nous, la Maison Jaune, etc. C'est-à-dire que quand on comprend ce que c'est que le nouvel ordre mondial, c'est en fait ce qu'on peut appeler Satan. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a le viol, la pédophilie, la torture, la manipulation mentale, le trafic de drogue, l'argent sale. Enfin, je veux dire, c'est.
Mais on est dans un James Bond.
C'est au-delà.
James Bond, c'est du propre. C'est des méchants qui sont propres.
Un film à partir des mémoires de Cathy O'Brien. Scorsese est enfoncé. Ils sont tous enfoncés. Hein. Tu peux pas. Je te dis, c'est le 9e cercle de l'enfer.
C'est même pas imaginable, en fait. C'est-à-dire que si on avait raconté ça aux gens il y a encore 2 mois. les gens étaient délirants. Mais
c'est ce qui fait
une île aux esclaves.
C'est ce qui fait que ça ne sort pas, parce que le grand public ne peut pas penser que les élites mondiales fonctionnent comme ça et que le monde peut fonctionner comme ça. Donc, ils refusent de l'admettre quelque part. Il y a des soupapes de sécurité dans le cerveau. Moi, pour comprendre ce que je viens de vous dire là jusqu'au bout, c'est des années, étape par étape, tu sais, où t'avances, tu descends dans les, ce qu'on décrit dans le Dante, c'est-à-dire les cercles de l'enfer, tu vois. Tu peux pas y accéder immédiatement. C'est trop. Tu vois, c'est trop.
Alors là, on a un journal dans lequel il explique, tiens, les gardes d'Epstein, enfin de la cellule, les gardiens de prison se sont endormis pendant 3 heures. Pendant 3 heures avec de la lumière qui est là constamment, avec des bruits, parce qu'il y a beaucoup de bruit hein, quand même dans ce genre de choses, pour tenir les gens éveillés, etc. Donc il y a quelque chose de
définitivement. Même le FBI n'a pas communiqué sur un suicide. Hein. J'ai pas la formule en tête, mais c'était l'apparent suicide, les termes du FBI. Donc c'est-à-dire
personne
qu'on est à un niveau
croit. Personne,
en fait, plus personne.
Vous oubliez quelque chose, États-Unis. C'est qu'Epstein s'était déjà plaint d'une première tentative d'assassinat dans sa cellule.
Dix jours avant.
Donc oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu tentative d'assassinat puis exfiltration, par exemple, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas eu deux opérations qui se sont, opposées?
En fait, il était en cellule avec un ancien policier. Écoute bien.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était un ancien policier qui avait, alors je crois que lui, il avait tué ou dépecé. Le mec était flic, il dépeçait.
Il y a souvent des serial killers dans ces réseaux.
C'était
serial killer
d'État. Et donc, il s'est retrouvé dans la même cellule que lui et ça s'était mal passé. Je vous dis ça de tête parce que ça date de.
Oui, c'était plein déjà d'une première tentative de strangulation.
Exactement. Hein, voilà. Je veux revenir sur ce que disait Alain Soral à propos du trafic de drogue et de la CIA. La CIA a eu un problème, c'est-à-dire que Reagan était parti dans un truc très en disant nous devons arrêter le trafic de drogue et il faut vraiment arrêter l'arrivée de la cocaïne, on va tout faire pour ça. Et la CIA s'est retrouvée très très embêtée parce que c'est grâce au trafic de drogue qu'elle finançait justement les armes.
C'est l'Iran Gate par exemple, l'Iran Gate.
Oui, mais même après. Et donc ça c'est Ambrose Evans Pritchard, le journaliste du Télégraphe de Londres, hein, qui écrit encore aujourd'hui, qui le raconte dans son livre, que la CIA donc a ouvert un deuxième quartier général chez Bill Clinton. À l'époque, il n'était pas du tout président des États-Unis, il était gouverneur de l'Arkansas.
Oui.
Bill Clinton leur a donné une aile entière de son palais
et son aéroport.
Exactement, voilà, d'où le fameux film qui est sorti récemment, monsieur
je cherchais le nom mais
on va le retrouver. Et c'est à partir de là que la CIA a continué en fait à faire son trafic de drogue pour financer les armes qui étaient envoyées dans les différents pays d'Amérique du Sud. Et je vous signale, ça fait quand même deux fois. Donc pour le remercier, c'est là où je veux en venir, pour remercier Clinton d'avoir abrité cette deuxième quartier général de la CIA, et ils l'ont fait élire. Ils l'ont fait élire président.
C'est aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand un président arrive pour être élu, il a été recruté de longue date et il
Exactement.
A donné tous les gages. Le seul qui a échappé à ça, étonnamment, c'est Trump, qui s'est financé lui-même et qui n'était
Exactement.
Pas le cheval qui devait gagner. N'oublie pas que celle qui devait gagner,
c'était
la femme de Clinton. Avec derrière l'affaire Pizzagate, les frères Podesta.
Qu'on retrouve dans l'affaire.
On a là des
simples,
des indices oui. de pédocriminalité extrême. C'est pas rien. Hein.
Donc je finis là-dessus. Je vous ferai remarquer quand même, surtout à nos auditeurs, que on a déjà eu deux patrons de la CIA, on va dire. On a eu le père Bush qui a fait toute sa carrière à la CIA, je vous le rappelle, devenu président des États-Unis.
Qui est mort récemment.
Oui, qui est mort
dénoncé
récemment.
Comme pédophile par Cathy O'Brien. Hein,
d'accord, je savais pas. Ouais. Le fils Bush, du coup, a pris la suite. Donc
pareil. Pédophile aussi, d'après Cathy O'Brien.
Mais on va dire, là, il y a CIA marqué en gros dessus. Et ensuite, on a Clinton, donc qui a été élu par la CIA et par tous les réseaux médiatiques que tient la CIA, je le rappelle. C'est très important de comprendre que la CIA gère aujourd'hui à peu près 400 journalistes aux États-Unis qui travaillent pour elle, et en Europe, on peut dire, on peut l'estimer à peu près à 2000, 3000, puisque l'intégralité de la presse aujourd'hui est contrôlée, et donc ça va dans le sens de
tous les réseaux Young Leaders de la French American Foundation.
Pour aller plus loin, tu as l'articulation de la CIA et du show business, c'est-à-dire d'Hollywood. C'est très très articulé. CIA, drogue, show business, c'est très articulé. Hein.
D'où le premier coup de pied dans la fourmilière d'Hollywood pour Trump,
qui était l'affaire Weinstein,
qui va être jugé là.
Tu vois très bien que dans cette stratégie, on va dire trumpienne de lutte contre l'État profond, tu vois bien qu'ils y travaillent étape par étape. Il y a eu l'affaire Weinstein qui fait tomber un peu tout un qui est d'ailleurs très marqué communautairement, un réseau hollywoodien. Là, on a l'affaire Epstein, c'est un cercle plus loin dans la monstruosité.
On trouve le frère Weinstein dans les carnets d'Epstein, évidemment.
Non mais là c'est complètement fou. Non mais il faut quand même parler du prince Andrew, parce que là il est emporté.
Ouais, mais comme par hasard c'est le seul dont on parle, alors que c'est quand même une famille royale chrétienne d'Europe, et que ça me fait penser un peu au scandale sur les prêtres pédophiles, tu sais.
Ah non mais attends,
la presse
anglaise est déchaînée. Oui,
mais pourquoi justement
Andrew? Mais parce que il vivait littéralement avec Epstein et avec toutes les minettes.
Ouais, mais il y a quand même toujours l'idée de fragiliser. De tenir la famille royale quand même. Aussi,
hein. C'est qu'ils ont peut-être pas réussi à aller plus haut. Ils se sont arrêtés.
Quand on regarde la composition sociologique, je dirais, du réseau Epstein, que j'ai vraiment décortiqué nom par nom, puisque c'est le travail qu'on fait à Fait et Documents, on voit vraiment qu'il y a deux gros piliers, c'est-à-dire les familles aristodécadentes européennes et les juifs.
Et ça, c'est
les deux.
Et ça, c'est le projet Kalergie de la Pan-Europe dès 1927.
Voilà, exactement.
Il faut faire, pour que le nouvel ordre mondial puisse s'instaurer, il faut transformer le peuple en métis abruti de 80 QI, hein, et qui seront dominés par une élite double composée de deux choses, l'élite juive mondiale et la haute aristocratie. C'est écrit noir sur blanc dans le projet qu'elle
ensemble, et étant deux races supérieures, parce qu'étant elles-mêmes deux races métissées, si on peut dire comme ça, bon. Et ce qui est intéressant, et ce que j'ai découvert en travaillant justement sur le témoignage de cette Québécoise et de son père et de son réseau, alors elle m'a cité effectivement des hommes politiques français, des cliniques, des endroits, du côté de Blois, avec un certain maire de Blois, enfin ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que son père est un spécialiste de l'autisme. Et c'est très très intéressant, parce qu'il est en train de se développer avec l'autisme, et c'est central. Et regardez bien, écoutez bien la petite musique qu'on vous sert autour de l'autisme.
La petite Asperger.
Les autistes de haut niveau. Et en fait, les autistes, on est en train de créer une nouvelle catégorie, c'est-à-dire que vous étiez déjà goy, vous étiez déjà profane, vous étiez déjà guère, bah maintenant vous serez neurotypique. Ça veut dire qu'en fait, les autistes, ils créent une communauté autiste qui appelle les non-autistes des neurotypiques. Et tout ça va être défendu au nom de la neurodiversité. Quel est l'intérêt des autistes?
Aucun affect.
Aucune empathie. Donc en fait,
il y a un cerveau hyper performant. C'est exactement le but de la programmation MK Ultra. C'est cerveau ultra performant, mais aucun affect. Est totalement manipulable.
Et donc ils seront derrière des ordinateurs, donc il y aura l'hyperclasse globale qu'on voit, hein, qui n'habite nulle part, qui est partout. Et d'ailleurs, dans les carnets d'Epstein, chaque type à 10 adresses. Les mecs, il a un appartement à Milan, à Tel Aviv, à Paris, à New York, à Palm Beach. Ils sont tous partout
hors sol,
avec 150 numéros de téléphone, parce que c'est des carnets qui
sont
de 2004.
Ils n'ont pas d'appartement à Gennevilliers.
C'est ça. Ils vont pas au Kebab du coup. Et alors, donc tu vois ça, et donc en fait, t'auras cette hyperclasse qu'on vient de décrire.
Kalergie.
Le sous-prolétariat métissé, hein, Kalergie parle de asiato-négroïdes.
Les majordomes, les capots.
Et au milieu, il y aura, tu vois, une couche d'autistes,
des technogestionnaires
qui donneront les ordres.
Mais on a déjà ça avec les énarques. Attends,
qui se reproduiront par GPA.
En plus autiste, ça sera encore mieux, tu vois. Parce que là, il n'y a plus aucun affect, très performant au niveau mathématique, et complètement programmable et manipulable. Hein. Et comme par hasard,
on n'est pas dans le projet, nous. Hein. Nous, on n'existe plus, tu vois, là-dedans, on n'est pas dans l'équation.
Moi, je suis un émotif pur.
Aussi. Attends, je vais quand même vous lire quelque chose. Alors, c'est une brève. Hein. C'est une brève qui se trouve, alors je ne sais plus où j'ai pris ça. C'est dans la presse anglaise, c'est signé par Daniel Bates, qui était à New York et qui a visité donc l'appartement d'Epstein. Alors, je vous le fais simple.
Alors, on lui avait donné, hein, je crois que c'est un type à qui on offrait des tas de trucs, hein, Epstein. Hein. On lui offrait des appartements, on lui offrait des trucs. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois bien que le mec était sponsorisé. Parce que pareil, on te fait croire que c'était un matheux, un homme d'affaires, etc. Alors qu'en fait, c'est plutôt un voyou.
Et puis j'ai parlé de la CIPCA tout à l'heure. On voit très bien qu'en fait, il y a des gens qui ont de l'argent illimité. C'est-à-dire que eux, c'est ce réseau-là, c'est la planche à billets. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on se dit combien on va avoir à la fin, combien on investit ici, combien on investit.
Eux, c'est
à un certain niveau, c'est l'argent, on le fabrique.
Alors, regarde bien. Alors, quand vous entrez donc chez Epstein, vous avez donc cet immense tableau de Bill Clinton, donc en robe bleue, donc celle de Monica Lewinsky lorsque elle lui a taillé une plume, on va dire ça comme ça. Clinton étant porte des talons hauts. Non, donc pour alors et ensuite dans la salle de bain d'Epstein, il y a des seins, des faux seins en fait, mais les vrais faux seins, celles que les femmes celles qui se font fabriquer des faux seins. Donc il en a mis partout dans sa salle de bain, c'est-à-dire que quand il prend son bain, il peut en même temps tâter des seins. C'est alors qu'il se lave. Non mais le mec, c'est complètement fou. Alors attendez, c'est pas fini. Ensuite, sur les murs, vous avez des yeux. C'est-à-dire des...
Ça, c'est le projet MK Ultra. C'est je te vois, tu ne peux t'échapper nulle part. Ça, je te vois en permanence. Filmé, quoi. Oui, je te contrôle en permanence. Tout ça, c'est des symboles MK Ultra. Hein.
Et d'ailleurs, c'est très intéressant ces histoires des yeux qui sont partout sur le mur, parce que ça me rappelle en fait le premier portrait. C'est un très très beau portrait d'ailleurs de la reine Elisabeth.
Pas le symbole illuminati de la première. Pyramide avec l'œil en haut. C'est ce qu'il y a sur tous les dollars.
Elle a des yeux partout sur sa robe. Elle a des yeux partout. C'est un tableau qui date de je sais plus 15e ou 14e siècle. Vous le retrouverez sur Google. C'est vrai. Et en plus des yeux, il y a des oreilles qui sont cousues en fil d'or sur sa robe. Hein, donc ça, c'est le portrait de la reine Elisabeth I. Hein, voilà. Et ensuite, il y a un tableau de Van Dongen qui est de 6, qui a priori donc vaut 6 millions de dollars. Et alors, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que la fortune aujourd'hui d'Epstein est estimée à 700, de ce que j'ai vu, j'arrondis, à 700 millions de dollars.
Il avait le temps de la transmettre, t'as vu, par
absolument.
Testament, avant de mourir. Là.
Non mais vous avez vu que
tout a été organisé quand même. Hein.
Avant, non mais attendez, parce que avant sa première incarcération, il gagne au loto. Quelques jours avant sa première incarcération.
Quoi?
Je veux dire, je suis pas complotiste.
Attends, c'est quoi,
mais il y a un moment donné, avant sa première incarcération, il gagne au loto. 2009.
Non, il est incarcéré en 2008-2009, il a des ennuis dès 2002-2003. Il faut rétablir la chronologie.
Oui, c'est difficile à suivre quand même. Hein.
Non, ils sont même capables de faire gagner un mec au loto, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire, en gros...
Le Zorro Trust, non mais regarde. En 2008, apprenions-nous tout récemment, grâce aux chercheurs de vérité américains, un trust dénommé Zorro Trust gagnait le loto de l'Oklahoma. On apprend, et donc le Zorro Trust, c'est le trust d'Epstein.
Oui, mais c'est un moyen de blanchiment de gagner au loto. Tu sais, ça se rachète les tickets de loto gagnant.
D'accord. Hein. Okay.
Tu rachètes le ticket de loto gagnant et tu dis que c'est toi qui as gagné. Ça permet de blanchir. Comme la billetterie de sport, tu sais.
D'accord.
Il y a des systèmes de blanchiment assez connus. Racheter les billets gagnants, la double billetterie de stade. Tu retrouves des mecs impliqués. D'ailleurs, pourquoi ils prennent le contrôle d'une équipe de football, les mecs, alors qu'ils sont dans le business? C'est toujours des opérations de blanchiment. Hein. Certains Dreyfus, d'ailleurs, qui n'est pas le capitaine, lui, mais qui est plutôt le patron de l'OM.
Louis Dreyfus.
Enfin, pas de complotisme et pas d'anticommunautarisme.
Non, mais je signale que à cette table, nous sommes tous des complotistes aux yeux du journal Le Monde.
Je suis aujourd'hui, j'ai découvert dans le livre d'histoire des classes de première, comme le symbole du complotisme français.
Non.
Je suis rentré dans les livres d'histoire.
C'est drôle. Félicitations.
Félicitations. Je suis dans les livres d'histoire.
Quoi, les livres de première, de terminale?
Livre de première. Avec une caricature de moi avec marqué égalité et réconciliation. Et il y a bien marqué que je suis le complotiste en chef en France. Et c'est évidemment pour me dénoncer. Alors, ce qui est bien, c'est que les gamins qui sont en première peuvent aller sur Internet et voir qui est Alain Soral. Et là, je pense que je convertis à peu près tout le monde. Et tu vois le niveau du... Moi, j'avais pas regardé les livres d'histoire depuis que j'ai quitté l'école dans les années 70. C'est des QCM pour enfants de 6 ans, alors que c'est même livre d'histoire de première. C'est hallucinant l'effondrement, tu vois ce que je veux dire.
Du niveau. Ouais, du niveau.
Mais à lui, c'est bien, parce que c'est trop, il méprise trop les gens. C'est-à-dire qu'à lui, t'as un gamin de 16, 17 ans qui a accès aux médias, Internet. Il peut pas gober cette merde, c'est pas possible. Il faut qu'il soit, qu'allergisé complètement, quoi. C'est-à-dire, non seulement métissé, mais même avec des électrochocs. Parce que tu sais que dans le projet Monarch, machin, les mecs passent leur temps à prendre des coups de pistolet électrochoc, hein. On les électrocute en permanence. Ce qui s'appelle les chauffer, les griller. Il y a des tas de termes comme ça. Et d'ailleurs, Cathy O'Brien dit, regardez les filles à poil sur les posters de magazines comme Hustler ou Playboy. Vous regardez souvent que ces filles à poil ont deux points comme des grains de beauté espacés de 2 ou de 5 cm qui prouvent qu'elles ont été pistolisées par de la haute tension, c'est-à-dire c'est l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant le taser.
Ouais.
Mais en fait, c'est des pistolets électrochocs. Ouais. Et on passe leur temps à leur en donner des petits coups, hein, pour créer de l'amnésie, tu sais, de l'amnésie. On les viole. On prend déjà des enfants qui ont eu des problèmes dans l'enfance, on les viole, on les torture, on fait tout ça, cérémonie de fouettage, et derrière un bon petit coup de taser de haute voltage, et on les remet dans le circuit du showbiz ou du mannequinat, et elles se rappellent de rien, sauf donc comme de temps en temps, t'as une Karen Mulder qui a des flashs, parce que le principe de ces gens-là, ils n'ont pas de mémoire, mais ils ont des flashs. Ils ont des flashs étranges, et ils disent, à un moment, est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Et à un moment, t'as Karen Mulder qui se retrouve chez Ardisson, qui a toujours été tenté quand même de faire du vrai journalisme, et qui était quand même un initié, puisque j'ai travaillé avec lui pendant 25 ans, qui vient de se faire virer par la bande à Hanouna d'ailleurs, mais qui sait, lui. Il c'est quand même le seul qui avait osé inviter et Karen Mulder et Marie Laforêt pour
c'est
d'autres
vrai.
Histoires
Je,
assez proches.
Vu avec
et on les avait fait après passer pour des folles, hein. Parce que c'est à la fin, quand tu oses témoigner de ce qui t'est arrivé, que t'as un peu compris ce qui t'était arrivé, par des flashs, on te dit effectivement, tu es psychiatrique, et là t'as toute la horde de psychiatres pour signer de l'internement et dire faux souvenirs, tu sais la théorie des faux souvenirs de monsieur Bensoussan, ils ont quand même produit une théorie sur les faux souvenirs, c'est-à-dire que les enfants qui racontent qu'ils ont été violés par leur père ou leur grand-père à l'âge de 3-4 ans, on a produit pour les tribunaux grâce à certains pédopsychiatres assermentés, notamment un certain Bensoussan, que c'est des faux souvenirs, alors qu'on sait très bien qu'un enfant de 3-4 ans ne peut pas inventer qu'il se prend une bite en érection dans la bouche par son grand-père, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible, il a pas, si tu veux, la constitution imaginaire et même du réel pour le penser si ça ne lui est pas arrivé. Or, c'est là qu'il faut s'intéresser au travail de ce sexologue Patrick Dupuis, qu'on invitera un jour, sur tous les contre-feux qui sont mis en place par les élites pédocriminelles au niveau des experts psychiatres et des tribunaux pour essayer de faire passer, dont le procès d'ailleurs d'Outreau, des enfants violés pour des affabulateurs. Je rappelle que j'ai édité le livre de Thomas sur le deuxième procès d'Outreau, où on retrouve d'ailleurs un maçon de la région lilloise qui est maître Dupont-Moretti, qui fait acquitter, je dirais de façon brutale, tous les gens qui étaient impliqués dans l'affaire d'Outreau, et qu'à la fin, on se retrouve avec 12 enfants violés, mais plus de violeurs, tu vois. Et comme par hasard, on a un Dupont-Moretti qui est lié au Parti Socialiste, lié à la maçonnerie du Grand Orient, région du Nord, et qui se retrouve comme mission de faire blanchir des gens qui ont quand même avoué être des pédophiles de réseau. Et là, on pourrait aussi basculer sur comment se fait-il que le président de la LICRA, maître Jakubowicz, qui, je rappelle, avait menacé en plein tribunal Dieudo en lui disant « On sait où sont tes enfants, on va s'amuser », il l'a dit à haute voix devant témoin, oui, bien sûr, oui, et que d'un seul coup, il démissionne de sa présidence de la LICRA, il n'est pas seulement président de la LICRA et juif, il est aussi maçon de haut vol, pour défendre inconditionnellement, en mentant ouvertement à la télévision, le fameux Lelandais, qui est le kidnappeur à minima de la petite Maëlys, et dont on découvre qu'il est cocaïnomane, marchand de drogue, de cocaïne comme toujours, maître chien et ancien militaire, et dont on soupçonne qu'il est peut-être même une sorte de Dutroux à la française. Et la question, c'est qu'est-ce que vient faire monsieur Jakubowicz dans cette galère, à part qu'on peut se dire, à un moment donné, il faut sauver à tout prix le soldat Lelandais pour ne pas qu'il
Surtout
parle,
qu'il avait dit,
parce qu'on est impliqué. Tu vois ce que
c'est
je veux
ma
dire
seule limite, je défendrai jamais de pédophile. Oui. Il l'avait dit plusieurs fois, et là, effectivement...
Non, mais moi, ce qui m'avait surpris dans cette affaire, c'est effectivement que BFM... lui donne tout cet espace médiatique quand même, invité de Rutel Krief pendant une heure.
Pose-toi la question de savoir pourquoi ce type qui n'a pas besoin de faire se mouille à ce point-là pour sauver un pédocriminel. C'est peut-être qu'à un moment donné, sa mission en tant que membre d'un certain réseau, on va dire au moins de haute maçonnerie, et on sait bien que au sommet de la maçonnerie, le maître, c'est Lucifer, n'est-ce pas? Et je suis un peu initié pour savoir qu'il s'y passe des choses parfois un peu étranges, et on sait très bien que il y a des liens entre haute maçonnerie, luciférisme, nouvel ordre mondial, gnagna, satanisme, et un certain judaïsme de type sabbataïque, machin, etc., gnagna. Ça demande beaucoup de travail. En tout cas, à un moment donné, qu'est-ce que vient faire maître Jakubowicz dans cette galère Lelandais, affaire Lelandais Maïlys? Hein, voilà,
on est d'accord. Et pourquoi Rutel Krief lui donne une demi-heure?
À la lumière de l'affaire Epstein, on peut peut-être se poser certaines questions.
Hein, et pour revenir sur les problématiques autour du contrôle mental, moi, des personnalités assez haut placées m'avaient dit, intéresse-toi à une fondation qui est spécialisée dans le contrôle mental, qui est le point névralgique du contrôle mental en France et qui s'appelle la Fondation Fondamentale. Alors, Fondamentale avec un M majuscule. Et je suis allé voir, du coup, cette fondation. Alors, je vous invite à regarder la liste sur Internet. Et ben, c'est l'organigramme et présidé, évidemment, par un membre de la famille Rothschild. Alors, je sais plus, c'est David ou Eric, enfin, des deux cousins. Et puis, vous prenez l'organigramme. Alors là, encore, vous avez une liste de scientifiques qui ferait
Epstein entretenait justement un certain nombre de scientifiques, effectivement, et on n'a pas assez insisté là-dessus.
Un gros tropisme avec les réunions TEDx.
Attends.
Le TEDx, on trouve énormément de scientifiques. Vous savez, ces grosses conférences qu'on voit sur Internet et qui marchent très très bien, TEDx.
Oui,
voilà.
Oui.
Et ben, énormément de personnalités liées à ces cycles de conférences apparaissent dans les carnets d'Epstein. L'INSERM apparaît dans les carnets d'Epstein, des personnalités liées à l'INSERM. Je vous dis, on a pour la première fois, sous nos yeux, un plan de l'état profond, et on se rend compte à quel point tout est imbriqué, tout est lié.
Oui, c'est le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial?
Je vais ajouter une chose, parce que ça, je l'avais vu effectivement. Il y avait une interview d'Epstein qui finançait, alors je sais plus quel, je crois que c'est le MIT ou un organisme assez célèbre. Et en fait, son but sur l'île qu'il avait sur le Saint James, en fait, il voulait avoir, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de gamines de 14, 12, 15 ans, peu importe, et enfin qu'elles tombent toutes enceintes parce qu'il voulait repeupler la Terre de son de ses gènes à lui, voilà. Et donc là on touche quelque chose, hein. On touche un sujet quand même qui est extrêmement sensible, mais on voit bien que là c'est quand même totalement,
voilà, on touche aussi au sujet de la vie éternelle, l'homme augmenté, voilà, il y a quand même tout un délire qui a à voir avec ça. Alors là je vais faire un lien quand même avec quelque chose, je peux pas le prouver. J'ai été approché à un moment donné, parce que je suis quand même au cœur de du complotisme, par quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Alain Perfit, qui était donc le ministre de Gaulle, avait déjà à l'époque lui-même une esclave sexuelle dont l'éducation avait été confiée à une speakerine à l'époque où il y avait qu'une seule chaîne, genre, je vais pas dire que c'est Catherine Langeais, mais alors si quelqu'un peut me confirmer ça, c'est-à-dire que même un ministre de Gaulle comme Alain Perfit, qui avait une drôle de gueule, hein, avait déjà à l'époque une esclave sexuelle. Et là, quand tu réfléchis, quand tu as un certain niveau de pouvoir, avec l'habitude d'être obéi, est-ce que tu vas te faire chier déjà à continuer à baiser la bonne femme que t'as épousée dans la bourgeoisie moyenne à l'époque où t'étais rien? Et est-ce que tu vas te faire chier à aller draguer des filles au restaurant en leur parlant de choses dont t'as rien à foutre? Il est évident qu'à un certain niveau de pouvoir, tu veux exercer ton pouvoir dans tous les domaines, y compris le domaine de ta sexualité. Et finalement, entre avoir une attachée de presse, un secrétariat, etc., pourquoi pas aussi une jeune personne fraîche et consommable, alors on sait pas jusqu'à quel âge ça peut descendre, qui est entièrement à ton service et qui a été entièrement dressée à ta sexualité plus ou moins perverse. Il me paraît assez logique, finalement, quand on regarde comment vivent les grands potentats moyen-orientaux, puisque aussi sont impliqués, oui, les Saoudiens et tout ça. N'oubliez pas que aussi les Saoudiens sont totalement impliqués dans le nouvel ordre mondial, puisqu'ils fournissent le pognon du pétrole et qu'on leur laisse ce pognon aussi pour qu'ils le mettent à disposition. Hein. En dehors de tirer des putes et d'acheter des Rolls en or, ils n'ont jamais développé leur pays, on les a jamais laissé le faire, et ils sont sommés de financer des tas d'opérations pour le nouvel ordre mondial américain. Hein. Oublier les Saoudiens. Et finalement, on se dit, on regarde comment fonctionnent les harems et ce qu'on appelle les potentats orientaux, mais finalement chez nous, à part que c'est caché par de la moraline chrétienne et bourgeoise, finalement pourquoi ils vivent exactement pareil? Ils ont des harems, ils ont des esclaves sexuels, ils ont des janissaires, tu vois ce que je veux dire? Ils ont donc des tueurs, etc. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, effectivement, pourquoi, alors qu'ils ont tout ce pouvoir, ils se sont battus pour ce pouvoir avec le niveau de méchanceté, de duplicité que ça implique, pourquoi d'un seul coup, au niveau de leur sexualité, ils fonctionneraient comme toi et moi, c'est-à-dire à se faire chier, à dragouiller, à inviter au restaurant, à baratiner, à se prendre des refus dans la gueule, etc. Il est évident, quand je réfléchis à ça, c'est que ces élites mondiales ont une sexualité qui correspond au reste de leur fonctionnement social et humain.
Alors, les témoignages de Cathy O'Brien sont absolument sidérants, c'est-à-dire que c'est vraiment esclave sexuel, c'est tu arrives, il n'y a même pas besoin de donner l'ordre, en fait.
Oui, parce qu'elles sont déclenchées par des mots-clés,
voilà,
et ça. Alors ça s'appuie beaucoup, leur programmation, puisque c'est dès l'enfance, sur tous les films Walt Disney. Alors, les deux trucs moteurs qui sont en fait de la pédophilie en image, alors elle le dit bien, et c'est quand tu le vérifies, tu comprends, Alice au Pays des Merveilles, n'oublie pas que Lewis Carroll était photographe de petites filles, en petite culotte. Et alors Lewis Carroll, c'est entièrement de la pédophilie, tu vois, tout, c'est tout du symbole pédophile. Et le magicien d'Oz, c'est entièrement pédophile, c'est que du symbole pédophile. Yellow Brick Road, le petit chien, etc. Quand tu décryptes ça, ça décrit entièrement l'esprit d'un enfant essayant de restituer dans son monde de l'enfance des abus sexuels pédophiles. Et ils sont programmés par le magicien d'Oz, par Alice et Pays des Merveilles, le magicien d'Oz et tous les films Walt Disney. On leur en fait bouffer à la tonne quand ils sont gamins dans leur élevage et on les déclenche. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on les déclenche sur des phrases absolument anodines de films pour enfants. Et exactement comme les pédophiles sont toujours membres de trucs caritatifs et habillent leur délinquance de bonnes œuvres, les signaux de déclenchement des esclaves sexuels, au lieu d'être « mets-toi à quatre pattes, salope », tu vois, des phrases qu'on a sur les enregistrements que j'ai, moi, de Tariq Ramadan, c'est « Bonjour, petite princesse, monte avec moi sur le chariot magique », et ça veut dire « Mets-toi à poil, monte sur le chevalet, je vais te fouetter », tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et c'est tout des, forcément des trucs déguisés en bien, tu vois ce que je veux dire, c'est tout de l'inversé. Plus c'est joli, plus c'est délicat, plus ça veut dire que c'est dégueulasse.
Et pour lancer une piste aussi, alors il y a des membres de la famille de Roald Dahl dans les carnets d'Epstein, et j'ai repensé, alors j'ai pas vraiment insisté, mais faudrait aussi réfléchir à toute la symbolique qui est autour de Charlie et la chocolaterie, ce genre de choses.
Ça sort la boîte à chocolat derrière.
L'univers autour de Roald Dahl mérite aussi d'être décrypté à l'aune peut-être de l'affaire Epstein.
Non, tu parlais tout à l'heure de Walt Disney. Je voulais rajouter que
très impliqué, il y a plusieurs, là-dedans. Pas lui, hein, mais
non, mais il y a eu plusieurs cadres de Walt Disney
dans la NASA,
qui ont récemment été arrêtés pour détention de 200 millions de 200 000 pardon images pédophiles sur leur ordinateur, trafic de Walt Disney, hein, je précise
dans
bien.
Les mémoires de Cathy O'Brien, elle implique la NASA, la CIA pour la recherche, etc., le show business et les films Disney, c'est-à-dire tout ce qui est cinéma pour enfants, qui fait le lien, si tu veux, avec le formatage des enfants pour la pédophilie. Ça passe que par du Alice au Pays des Merveilles.
Alors, en ce qui concerne le magicien d'Oz, alors moi je l'ai jamais vu sous cet angle-là. En revanche,
regarde-le.
Non, mais je l'ai regardé parce que je me suis beaucoup intéressé effectivement à l'auteur. Et l'auteur, en fait, si tu regardes bien, c'est surtout parce que à l'époque où ça a été écrit, il y avait un grand débat aux États-Unis qui était au standard or. Faut-il sortir du standard or? Faut-il garder le bimétallisme? D'où le fameux Yellow Brick Road, c'est-à-dire et il disait que le billet vert, hein, donc c'est ce qu'on voit à la fin du film, en fait, la planche à billets ne sert à rien et qu'en fait, il faut revenir à l'or et à l'argent. Hein, voilà, c'est surtout comme ça que tu le
vois. Oui, c'est du crypté à plusieurs niveaux.
Et pour te rejoindre, comme tout est lié au moment où sort l'affaire Epstein, on voit se développer dans la presse, même mainstream et même en France, la critique générale du néolibéralisme qu'on nous a imposé comme dogme depuis 30 ans. On voit des articles, je sais pas si tu as vu, en une du Parisien, double page, la flambée de l'or et de nouveau évoquer le retour à l'étalon or. C'est-à-dire que tout est lié, c'est-à-dire que la chute d'Epstein et la chute de son réseau arrive en même temps que la chute
du dollar qu'on annonce de plus en plus.
Alors que le Parisien faisait des articles quasiment contre l'or.
Voilà.
Il y a eu quasiment un procès entre le
Parisien et Bernard Arnault.
Ils avaient balancé
des
fausses
infos. Alors là, ce que j'ai fait remarquer, c'est imaginez quelqu'un qui écoute cette émission et qui sort, on va dire, du journal de France 2. Il pense qu'on est tous fous. Tu vois ce que je veux dire? Il pense qu'on est tous fous. Et c'est ça qui protège le monde mondial. C'est que ça demande tellement de d'étapes d'initiation et ça va tellement loin dans la monstruosité que pour un type normal, le grand délinquant du nouvel ordre mondial, c'est qu'il est protégé par, on va dire,
la crédulité.
Le monde du gentil.
Alors on entendait les gens nous dire, si Macron il a géré l'argent de Rothschild, s'il pouvait gérer notre argent, si Rothschild lui a fait confiance.
Lol. Voilà. Non, mais oui, j'ai entendu ça.
Quand tu lis le témoignage,
mais il y a que des retraités.
Le témoignage vidéo de Cathy O'Brien, elle te raconte des trucs tellement incroyable que la réponse, par exemple, de Bush, elle raconte que sa fille a été dressée comme esclave sexuelle de Bush senior, qui n'a qu'une sexualité de pédophile sadique. Et à un moment donné, Bush, il a qu'à dire, qu'est-ce que c'est que cette folle? C'est une pute qui a des problèmes psychiatriques, puisque c'est vrai, en plus, elle est esclave sexuelle, et elle est d'une famille de pédophiles, donc il te dit, mais on avait, rappelle-toi dans le dossier Baudis qu'on a à peu près le même genre de truc. Les gens qui témoignent contre lui sont des marginaux, recrutés par Allègre derrière la gare, pour participer à des cérémonies de sexualité transgressive de type sadique, et à un moment donné, il suffit qu'ils se rétractent parce qu'on les menace, ou ils se suicident en prison, ou on dit de toute façon, ce sont des marginaux qui ont des passés psychiatriques, parce qu'en général, l'enfant, incestué et violé, de toute façon, est psychiatrique. la fille de Cathy O'Brien qui refuse de soigner.
Ango.
Elle est à
Ango.
Oui, mais ça c'est le lien entre judaïsme et pédophilie. Hein, c'est encore autre chose. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on nous vend ça comme du talent.
Hein, Ango, elle est un parfait exemple hein, de ça. Hein. Complètement siphonnée, la pauvre.
Elle a voulu rentrer chez Epstein, mais personne n'en voulait.
Donc, je veux dire que le nouvel ordre mondial, on va dire sataniste, auto-protégé par sa propre monstruosité et le fait que les gens normaux, puisqu'ils sont normaux, ne peuvent pas croire à une telle monstruosité. Donc tu vois, en général, je pense que plein de gens se diront à la suite de cette émission, bon, ça râle. D'ailleurs, dans un article marocain...
Ils peuvent tout vérifier, hein, c'est ça que... Alors, moi, on pouvait tout vérifier
sur la table. Là.
Dans un article sorti au Maroc la semaine dernière sur l'affaire Ramadan, à la fois ils disent Ramadan est un tartuffe, et ils disent, oui, et Soral est un illuminé. C'est-à-dire que, pour quelqu'un de normal, ce que je viens de raconter là fait de moi un demi-dingue. Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, des gens qui me prenaient pour un demi-dingue il y a 10 ans me disent aujourd'hui, en fait, vous aviez raison, j'ai mis 10 ans.
L'affaire Moix, j'ai mis 10 ans à réaliser. L'affaire Moix, ça a été grandiose, là.
Il faudra encore 10 ans pour que j'en dise, Soral, en fait, avait tout décrit du nouvel ordre mondial dans toute sa complexité.
Alors, pour faire la connexion avec les compromates Epstein, parce qu'on dit toujours les compromates, c'est les Russes, c'est un truc de Russes. On voit quand même que les compromates ont été utilisés, là, pour faire tomber le gouvernement autrichien, Strache, c'est un type des services secrets allemands qui a écrit un article dans la presse allemande en disant l'affaire Strache avec le compromat à Ibiza, c'est monté par les services secrets israéliens. Et je tiens à préciser qu'il y a quand même 2 personnes et seulement 2 en France qui ont été victimes de compromat, c'est vous et Tariq Ramadan. Et
par le même El Fassi. Mais Ramadan, au lieu de montrer El Fassi du doigt, me montre moi du doigt en ce moment. Hein, il dit c'est Soral et Caroline Forest, comme si je pouvais être allié à Caroline Forest.
En allant chez Bourdin, parce qu'il a demandé à aller chez Bourdin, parce qu'il savait que Bourdin était impliqué dans une affaire de salon de massage.
De Bourdin, salon de massage. Avec sa femme.
De salon de massage qui a été démantelé, donc où il y avait de la prostitution, qui s'appelait l'adresse confidentielle dans le quartier de la Madeleine.
Oui, il y a eu demi-mot, hein. Ils ont échangé à demi-mot 2-3 trucs.
Voilà. Et donc l'autre, la tenue en respect comme ça pendant l'interview. Et ensuite, il a fait quand même, au passage, une petite menace à Macron, sur sa vie privée. Comme tout le monde a pu le voir. Donc ça, c'était très intéressant de voir le jeu de Ramadan précisément avec Bourdin sur l'hypocrisie des déviances sexuelles.
Alors bah, justement, restons là-dessus. Derrière l'affaire Ramadan, qui n'est pas un violeur, je l'ai toujours dit d'ailleurs, mais qui a une sexualité qui ne correspond pas à la sexualité à laquelle on s'attend d'un prédicateur musulman, je rappelle.
Toutes ces nanas, elles revenaient en plus.
Non, c'est pas ça le sujet. Oui, c'est que ça a été monté par la même personne qui a monté l'affaire Binti contre moi, à part que moi, l'affaire Binti, il n'y a pas 10 femmes derrière qui sont venues se plaindre. Il n'y a eu que l'affaire Binti que je n'ai jamais vue, et ça s'est arrêté là parce que justement, je n'ai pas de sexualité, on va dire, déviante. Alors que lui, il a une sexualité sadomaso. Elle est d'ailleurs acceptée avec une certaine suggestion, une certaine domination psychologique. N'oublie pas que depuis quelque temps, on a introduit dans le droit français la notion de viol rétroactif. C'est-à-dire une fille qui dit « à l'époque j'étais consentante, mais avec ce que je sais aujourd'hui et mon niveau de maturité, j'aurais dit non si j'avais eu la maturité d'aujourd'hui ». Et on est en train de valider le viol rétroactif. Et en fait, Ramadan est pris un peu là-dedans. C'est des filles qui disent « oui, j'étais dans une suggestion par rapport à ce maître à penser musulman que j'avais consulté, et en réalité, il m'a dominé spirituellement, mais n'empêche qu'elles étaient d'accord ». Mais ce qui est incroyable, c'est que Ramadan, au lieu de dire que il a été mis là-dedans, piégé, machin, pour qu'on garde le contrôle sur lui, et que c'est comme ça qu'on l'a fait tomber, au lieu d'incriminer El Fassi, qui amène au Mossad.
Et Forest, qui est derrière les
accusations. Oui, tout ça amène au Mossad, hein, tout ça amène au Mossad et au sionisme dur. Il me crache à la gueule, moi, alors que je suis le seul qui a dit, Ramadan ne mérite pas d'être en prison. Par rapport à la loi française, il n'est pas délinquant, il n'est simplement délinquant que par rapport à la loi coranique, mais qui n'est pas effective en France. Eh ben, il y a quand même qu'à moi qui s'en prend en ce moment. On dirait que pour survivre et essayer de sauver ce qu'il peut sauver, on lui a fait passer le message, si tu peux charger un peu Soral, fais-le. Et il est en train de le faire, il l'a fait 2-3 fois de suite, là, en ce moment même, hein, voilà.
Enfin, tout ça pour dire que pendant que, il y a le déballage Epstein aux États-Unis avec tous les Américains qui découvrent et qui suivent ce feuilleton, hein, comme ils ont déjà suivi le feuilleton Trump, qui est quand même un président, parce que là on arrive aux 2/3 de son mandat, donc on peut commencer à dresser un premier bilan, qui est quand même un personnage incroyable, au niveau de son action pacifique qui est quand même extraordinaire.
Mais parce qu'on attend la dernière surprise avec l'Iran, tu vois, qu'après avoir détricoté tout l'Iran qui avait été mis en place par Obama, les réseaux Obama, en faisant croire qu'il détricotait ça pour les Israéliens, il va tout retricoter dans le bon sens, comme il a fait avec la Corée du Nord, etc. On peut déjà l'écrire en avance qu'il va entièrement se réconcilier avec les Iraniens et refaire tout un système de contrats qui passeront par lui et pas par le réseau Obama.
Et une solidité. Alors, le deuxième enseignement, c'est qu'il a certainement des réseaux, donc à l'intérieur de l'État profond, en tout cas des réseaux
qui résistent à l'État profond.
Voilà, si on veut. Donc au moins au Pentagone, hein, certainement.
Et n'oublie pas qu'il a été élevé de l'âge de 12 ans à sa maturité dans une école militaire et qu'il s'y est très bien comporté. Donc il est structuré militairement. Et c'est pas un délinquant sexuel pédophile décadent. Tu vois ce que je veux dire?
Et surtout, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il s'est pris dans la gueule au jour le jour, c'est-à-dire tous les jours, toutes les heures, toutes les trois heures,
une affaire Fifillon,
qui aurait mis n'importe quel homme politique français
à genoux.
Suicide. Alors, l'actrice porno qui écrit un bouquin sur sa bite, on a tout eu.
Information aussi, il paraît, tu pourras le confirmer, qu'il dîne tous les soirs tout seul dans sa chambre de McDonald's, qu'il fait acheter tous les jours par un homme de confiance dans un McDo différent.
Et
il a peur d'être assassiné
empoisonné.
Par sa propre cantine.
Tu hallucinant. Vois.
Donc le type se rappelle du film Zapruder, n'oublie pas, et de Kennedy, et il sait à quoi il s'attaque et ce qu'il risque. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai un grand respect pour lui. Et comme par hasard, il se déclare sioniste par des gris-gris d'apparence, pour en fait lutter contre l'État profond, c'est-à-dire quand tu veux combattre Soros, on va dire, en gros, il faut que tu t'éclares pote avec Netanyahou, et tous les vrais patriotes en ce moment sont obligés d'en passer par là, que ce soit Orban, que ce soit Salvini, que ce soit même Bolsonaro, je suis en train d'étudier la question en ce moment, ils font tous du sionisme de pacotille pour lutter en fait contre ce pouvoir oligarchique mondial qui est très judaïque dans son fondement. Et ça, c'est aussi intéressant pour
Syrie,
les...
Sur la Syrie, Daesh a complètement disparu. Le terrorisme islamique...
Ils travaillent la main dans la main avec Poutine, en réalité, à essayer de démanteler le nouvel ordre mondial. Je pense que c'est quand même ça. Et même, je crois que Macron s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une petite place à prendre s'il voulait lui-même...
Ceci explique la position de Macron dont tu parlais au début d'émission.
Sur les sanctions russes, il y a eu des trucs hallucinants. Par exemple, ils sanctionnaient une entreprise et ils disaient à Poutine, écoute, je retire les sanctions à condition que tu éjectes de cette société Deripaska, qui était le type qui s'était fait humilier dans l'affaire de la signature, quand il avait réuni tous les oligarques. Donc le type allait forcément un jour se retourner contre Poutine. Donc Poutine dit, il n'y a pas de problème, je vire Deripaska, et bim, il lève les sanctions. Et ce n'a été que ce jeu de bluff, avec toute la presse française qui comprend rien, qui suit, c'est la guerre commerciale avec des grands mots qui veulent absolument rien dire.
Ou alors, salaud de sioniste aussi, avec moi, mes gauchistes résiduels, là. C'est, vous voyez, Trump, vous croyez que, mais c'est un salaud de sioniste parce que il a accepté un truc qui coûte rien et dont on a rien à foutre. C'est effectivement la capitale d'Israël, c'est Jérusalem, quoi, je veux dire. Mais l'important, c'est quand même de combattre contre ce qui permet à Israël d'exister, qui est, en fait, la toute puissante diaspora, qui est à la tête du nouvel ordre mondial. Sans Wall Street et sans Hollywood, il n'y a pas d'Israël.
On redonne les noms, Bloomberg, Rothschild, ils y sont tous. Il y a le neveu de Soros dans les carnets. On retrouve là, il y a de la famille de George Soros. On retrouve les Oppenheim qu'on avait perdu. Moi, cette famille, je croyais qu'elle était éteinte. Et les Oppenheim, on savait plus. On les retrouve dans les carnets d'Epstein.
C'est
on retrouve.
Incroyable.
C'est
une très belle affaire.
Du Gotha mondial.
C'est le signe que ça bouge et que il y a une guerre profonde et dans tous les sens du terme, contre des gens qui sont des patriotes nationalistes. Hein, rappelez-vous quand même Comprendre l'Empire, le sous-titre, c'était Demain la gouvernance globale. Absolument. Ou la révolte des nations, sorti en 2011. On est en plein dedans. Et en ce moment, il semblerait qu'il y ait quand même une révolte des nations et des types qui sont alliés, qui sont des alliances de nations, contre ce que j'ai appelé moi l'Empire, que, comment s'appelle, de Benoît, c'est semblant de pas comprendre de quoi je parlais, hein, parce qu'il a intérêt à pas comprendre, qui est effectivement le nouvel ordre mondial, hein, et dont on vient d'ailleurs de décrire exactement tous les tenants et les aboutissants.
Hein. Ah, mais cette émission est fascinante, parce que d'une part, elle a montré à nos auditeurs, d'ailleurs moi-même je suis le premier surpris, hein, et pourtant, j'ai de la bouteille, comme on dit en termes de presse, mais à quel point la presse française a démissionné totalement de ses... Mais c'est hallucinant. C'est à se demander même.
Il suffit de regarder l'émission du samedi soir de
soumission volontaire ou payée, je sais pas.
Non, mais il y a eu une émission sur France 5 sur l'affaire Epstein qui a été un faudrait presque la mettre en dessous de notre publication, de notre émission, oui. Pour que les gens comparent.
Oui,
c'est-à-dire que déjà, ouais. Bon, il s'appelait Epstein, Weinstein, Jeffrey Epstein, alors bon, c'est un russe, machin. Alors, pas une fois le mot juif a été...
Geoffrey, en plus, Geoffrey Epstein, voilà. C'est-à-dire que c'est vieille noblesse française, Geoffrey, avec ascendance ouais. Russe.
Voilà, c'est ça. C'est un russe blanc, quoi.
Geoffrey, mais c'est
n'importe quoi.
Geoffrey d'Anjou. Aucun nom. Geoffrey, tu sais, de la marquise de Dupuis d'Anjou, tu sais, dans
Aucun nom cité. Ils n'ont cité aucun nom. C'est-à-dire que c'est interdit de citer un nom dans la presse française. Parce qu'en fait, c'est éditorialisé, intellectualisé. Donc, sous ce prétexte-là, évidemment, on ne cite aucun nom. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cité Ehud Barak, alors que les photos sortant de chez Epstein sont sorties dans le Daily Mail. Elles ont fait le tour d'Internet. C'est-à-dire qu'en plus, ils prennent les gens pour des cons et on en est réduit à un point en France où les médias russes, c'est-à-dire Sputnik et RT, reprennent des articles de la presse américaine parce que c'est comme ça que nous recevons, ou le grand public reçoit les infos, parce qu'en France il n'y a plus rien.
Est-ce qu'on pourrait pas associer ça comme tendance générale à la chute de mon ex camarade Yann Moix, que BHL n'arrive pas à sauver, hein? Parce que ça aussi
c'est la mise à la porte
après la mise au tapin de Thierry Ardisson, qui commence à s'énerver un peu et à dire, quand on est un mâle blanc de plus de 50 ans, on n'a plus le droit de faire de la télé. Je crois que c'est pas ce mâle blanc de plus de 50 ans, c'est mâle goy de plus de 50 ans.
Mais cela dit, Ardisson avait toujours dit, oui, c'est de Carolis qui m'a viré, c'est de Carolis qui m'a viré. Ouais. Là, il dit, parce que quand il s'était fait virer de France 2, alors que c'était pas de Carolis, là, il aurait pu dire c'est Bolloré dans la même veine. Là, il a pas dit c'est Bolloré, il a dit c'est Saada, Hanouna, il a cité un troisième de la bande, qui était à peu près du
même acabit. C'est Sébastien qui a dit la même chose.
Oui. Et puis Bigard, en ce moment, qui ose aussi. Et alors Bigard, je pense qu'il acceptera que je le dise. Je suis passé l'autre jour devant un restaurant, il dînait en terrasse. Je croise son regard et moi, comme je suis un brave garçon, je dis s'il me fait pas signe, je dis rien parce que je vais pas foutre les mecs dans la merde compte tenu que je suis quand même l'ennemi public numéro un. Il se lève et me fait Alain, comment vas-tu? Il m'invite à sa table, il me présente sa femme et il me dit Alain, toi et Dieudonné, tenez bon. Tu vois, comme ça, en haute voix devant tout le monde. Ça, c'est quand même un signe. Et je le revois chez Sud Radio quelques jours après, face à Elisabeth Lévy, défendre bec et ongles les gilets jaunes.
Qui se foutait de sa gueule parce qu'il était catholique. Et alors, il lui a dit, écoute, je dis pas ce que je fais en termes de dons. Et effectivement, il est engagé dans des tas d'œuvres caritatives, pour le coup, qui avaient justifié, selon lui, qu'il aille voir le pape. Enfin, vraiment, vous voyez que c'est... En plus, c'est très drôle, Bigard, parce qu'il est catholique un peu à l'italienne. C'est le catholicisme populaire, qui n'est pas du tout le catholicisme Fillon, quoi.
Mais rappelle-toi que lui, il a été mis à mort, il a parlé du 11 septembre. Enfin, je veux dire, il y a...
Le fameux passeport qu'on a retrouvé intact.
Tiens, j'ai sorti aujourd'hui même une photo de Muriel Robin. Je vous l'ai envoyé, non? Photo de Muriel Robin qui s'est mis à l'attaquer en disant que c'était un ignoble misogyne et on lui avait supprimé 50 dates parce qu'il avait fait une vanne qu'il faisait depuis 30 ans sur une vanne de cul qui a été déclarée
C'est bizarre, misogyne. Apologie du viol.
Ouais, apologie du viol. Et comme par hasard, la Muriel Robin, là, je la vois, là, qui essaye d'exister à tout prix lesbienne, dépressive, pseudo-comique en fin de carrière. Et là, je vois une photo d'elle que j'ai transmise. Je vous la montre. Regardez. Qu'est-ce que tu vois?
Ok, je vois. Elle est en Israël, non? C'est ça?
Muriel Robin en photo à côté d'une soldate de Tzahal, tu vois? Hein? Alors, il faudrait vérifier. Je crois qu'elle est fille d'un marchand de godasses de Saint-Étienne. Il faudrait vérifier que, à mon avis, c'est pas une Robin des Bois. C'est
le Robin des Bois.
Le Robin des Bois.
Mais comme par hasard, elle s'en est pris à son ami de 30 ans, tu vois, pour le flinguer.
Ouais, c'est pas sympa. On a l'impression que c'est de la prostitution.
Comme disait Kissinger, qui quand même est un initié, disait, on pourrait parler du Bohemian Groove et du Bohemian Club, tiens, en finale, pour mettre une petite cerise complotiste sur le gâteau. Qui disait bien, ce qui se passe en ce moment à la Maison Blanche, c'est une lutte entre
juifs et non-juifs. Kissinger dit ça dans le bouquin de référence qui est sorti sur Trump. Et alors sur le Bohemian Groove, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, pour ceux qui ont encore des doutes sur les intentions de Trump, c'est que le Bohemian Groove, donc là, est cité dans le livre de Ryan, mais le premier à l'avoir sorti, disons, au niveau du grand public, ça a été
Alex Jones.
Et quand Trump a fait sa campagne, il est passé dans les médias, il est passé chez Alex Jones. Il faut quand même se rendre compte que c'est comme si un candidat à l'élection présidentielle en France venait à ce micro. Et deuxièmement,
c'est un peu le Soral français, c'est mis en place,
c'est mis en place un forum qui s'appelle le QAnon, qui est un truc très intéressant.
Le QAnon, où
sortent énormément d'informations. On peut pas penser que ce sont de simples citoyens qui
canotent. C'est un gradé,
voilà. Et donc le type qui se fait appeler Lionel, donc c'est vraiment des gros, c'est du très lourd, quoi. Le type qui se fait appeler Lionel a été reçu à la Maison Blanche par Trump. Donc là, je passe un appel solennel ce soir. Si vraiment Macron veut lutter contre l'État profond, il peut toujours lancer une invitation à Alain Soral à l'Élysée, et ce sera un vrai signal envoyé.
Alors, qu'est-ce qui me fait penser que ce que dit Cathy O'Brien dans son livre est relativement vrai ? C'est que le livre est écrit, je crois, fin des années 80. Elle décrit le Bohemian Groove et le Bohemian Club très très précisément, les pratiques, le décor, le lieu, etc. Et à l'époque, Alex Jones n'avait pas fait ce film, voilà, ce reportage caché qui montrait.
Oui.
Et donc là, on peut confirmer que tout ce que dit Cathy O'Brien sur ce lieu incroyable est totalement confirmé. Au détail près par le documentaire
d'Alex Jones.
Donc là, je me dis, si elle est aussi précise dans cette description, parce que moi, si j'avais pas vu le truc d'Alex Jones, je me dis, un espèce de lieu sécurisé au nord, dans la Californie, dans une forêt de séquoia, où il y a une milice privée, des voitures privées avec des uniformes, avec des hiboux, et où à un moment donné, on sacrifie sous une statue de Moloch, c'est-à-dire d'un hibou géant qui est un dieu babylonien ou assyrien, beaucoup utilisé dans les procédures satanistes, de 12 mètres de haut, l'effigie d'un bébé qu'on brûle, et ça s'appelle cremation of care, c'est-à-dire on brûle sa peur, tu vois, avec des mecs en toge qui se mettent à hurler, tout ça vous le trouvez sur internet. Cathy O'Brien décrit ça et bien d'autres choses, de viol, de cérémonies satanistes, pédocriminelles, etc. Si j'avais pas vu le truc d'Alex Jones, je me dirais bon, c'est vraiment du délire. Or, je vois que ce qu'elle décrit, elle, en 88, est totalement corroboré par ce documentaire où le mec filme en cachette, qui sort au début des années 2000, je crois. Donc je me dis que là, ça prouve quand même que ce que raconte Cathy O'Brien, déjà il faut de l'imagination pour inventer tout ce qu'elle invente, parce qu'elle décrit des lieux de la NASA, de bases américaines, etc. Elle les décrit très précisément, elle dit où c'est, elle nomme les mecs, parce qu'elle a protégé sa vie. En balançant tout de A à Z, hein, mais elle a balancé tout il y a 25 ans, et ça a rien changé en réalité, hein. Mais là, tu vois, la partie sur le Bohemian Groove et le Bohemian Club, dont sont membres toutes les élites mondiales, 25 ans de liste d'attente, une adhésion à je sais pas combien, $250,000 ou je sais pas quoi, là, tu te dis que, effectivement, c'est vrai, tu vois. Et si ça est vrai, il est très probable que le reste soit vrai. C'est pour vous dire que pour ceux qui ne croient pas qu'il existe un nouvel ordre mondial, qui est une espèce de société secrète mondiale, qui pratique à la fois de la collusion, du trafic, de la politique, mais aussi une religion inversée, regardez, c'est accessible sur Internet, le petit documentaire de Alex Jones, qui a fait sa réputation mondiale, puisqu'il a réussi à s'infiltrer dans cet endroit et à filmer la cérémonie annuelle qui s'appelle Cremation of Care, de ce Bohemian Club, dans ce lieu qui s'appelle le Bohemian Groove, c'est ça, hein. Et là, vous verrez que tout ça existe, quoi. Et que ça fait froid dans le dos, hein. C'est, à la limite, le film de Kubrick, Eyes Wide Shut, c'est encore gentil par rapport à ça.
Et pour compléter ce que vient de dire Alain, en fait, il y a un troisième film que je vous invite tous à regarder. Alors, la traduction anglaise du titre, c'est le Bon Pasteur, je crois. Donc c'est l'histoire d'un gamin qui assiste, en fait, au suicide de son père, qui devient un des grands patrons de la CIA naissante, hein, dans les années 60, donc 50, 60, 70, et qui effectivement, donc, lui est membre d'un club, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est du même...
C'est
Skulls and Bones, justement. Oui. C'est le Skulls and Bones, où on doit révéler un secret personnel devant tout le monde, parce que ce secret les lie tous les uns aux autres, hein, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait qu'il accède littéralement à la tête des opérations noires de la CIA,
Voilà. Mais Hollywood balance régulièrement des films qui, quand même,
produits par Robert De Niro,
valident des choses. Mais à mon avis, c'est peut-être une stratégie de dire on en parle, c'est peut-être vrai. Mais finalement, bon, tu
oui,
vois.
Il y a un bout, oui. Il y a un bout, oui, voilà, je te dis, c'est de la fiction.
La preuve, regardez.
Oui, oui,
Des vérités comme ça, mais qu'on rencontre pas quand on a le tableau.
Oui, il y a des films qui parlent de ça, il y a peut-être un fond de vérité, où c'est à moitié fiction, à moitié réel, qui est peut-être plus habile, si tu veux, que de ne pas en parler du tout et de laisser gonfler le complotisme, tu vois. C'est parce que, le film complot, là, de, comment il s'appelle?
Richard Donner.
Au début, tu crois que le mec est fou. Et à la fin, ça valide entièrement le projet MK Ultra.
Voilà, lui, c'est un tueur spécialisé de la CIA et qui en a fait, échappé. Il y a une guerre entre deux factions déjà.
Mais tu sais que c'est, ils ont refait la même chose avec Jason Bourne. Jason Bourne, c'est aussi un mec, un tueur du MK Ultra qui échappe à ses mentors de la CIA et qui devient un électron libre. Et quelque part, qu'on nous habitue par le Hollywood à admettre que c'est effectivement ce que ça a existé. Mais par contre, le film montre toujours le point de vue des gentils, c'est-à-dire que t'as les méchants de la CIA qui ont monté ce projet dans le dos des décisionnaires gentils, qui sont les vraies élites politiques élues, et il y a une guerre interne, et là, c'est là où c'est inversé, c'est que les élus gentils luttent contre les méchants qui ont fait ça dans le dos de la démocratie, etc., etc.
Oui, c'est toujours...
c'est inversé, c'est montré en inversé, à peu près à chaque fois, parce que pareil, dans Complot, à la fin, on voit que les gentils de la CIA essaye de sauver le mec, et en fait le méchant c'est celui qui a pris le contrôle du truc dans le dos d'eux, et qui est le mec avec le nez cassé là, qui a une sale gueule, tu vois, c'est pour ceux qui ont vu le film. Et donc en fait on te vend le truc, puisque à un moment donné on peut peut-être plus vraiment le cacher, puisque les réseaux sociaux, etc., mais on te le vend toujours en inversé, c'est-à-dire oui effectivement, il y a des gens dans la CIA qui ont fait ça, c'est les méchants, et les bons de la CIA, qui est le pouvoir politique officiel, essayent effectivement de reprendre la main et de les châtier, alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse.
Alors attends, justement pour aller dans ce sens-là, je recommande la lecture, alors je ne sais pas s'il a été traduit en français, Robert Baer, je sais pas si vous voyez qui c'est, il a fait toute sa carrière 30 ans à la CIA en tant que chef de station en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, à Paris aussi.
Hein, il y a eu un film sur son histoire.
Il a écrit plusieurs livres. Il a écrit
c'est traduit
des documents.
En français, oui. C'est traduit.
Non, pas tout. Il a écrit des documents, c'est-à-dire une biographie, etc., blabla. Mais il a écrit surtout un roman. Voilà. Et là, je parle du roman. Or, Baer, moi, j'ai lu son roman et je vous le conseille de lire parce que, grosso modo, ce qu'il explique dans ce roman et pour cause, pourquoi il en a fait un roman, c'est qu'il explique qu'au sein de la CIA, il y a eu une division. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de la CIA tout en haut qui signe un deal avec Ben Laden, effectivement, parce qu'ils voulaient récupérer le pétrole et donc ils ont fait sauter. Ils avaient besoin de ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous souvenez, là, après la nuit des longs couteaux, il y a eu suppression des libertés civiles, interdiction de circuler.
Oui, bah là, c'est le patriotique.
Et c'est ce qui s'est passé avec le 11 septembre. Et il donne les clés du 11 septembre, littéralement. Baer explique ce qui s'est passé au sein de la CIA.
Et là, encore une fois, alors.
Avec son roman.
Il y a un agent qui vient de dire que Poutine avait prévenu le président des États-Unis 2 jours avant le 11 septembre. Et c'est un agent qui vient de le balancer. Il y a la semaine dernière.
Et là, dans la dernière ligne droite, parce que là, l'échéance, c'est novembre 2020, c'est la réélection de Trump. On va voir jusqu'où il va aller dans le déballage.
Ça va être très intéressant.
Et je pense que là, on est, Hervé Epstein, c'était vraiment l'apéro. Là, on est à l'entrée, là.
L'amuse-bouche.
Et on fera sûrement une émission quand arrivera le plat de consistance. Et entre la poire et le fromage, je pense qu'on sera
encore très rassasiés. Prions pour qu'il ne meure pas d'une crise cardiaque.
Ou d'un cancer foudroyant.
Parce que ça aussi, c'est sur
ils
la table.
Ils en seraient capables.
Ah, bah non, mais
ils en seraient tout à fait capables.
Il faut qu'ils vivent, quoi.
Sur le reportage que j'avais fait en Turquie, il y a un papier et j'ai mis toutes les unes, Erdogan et Trump. Et les deux ont les mêmes unes. C'est des fous, c'est des criminels, c'est des...
Ça aussi, c'est important, le basculement d'Erdogan après une tentative d'élimination par ses bons. Par les gens pour qui il travaillait depuis des années, faut pas oublier. Et il est sauvé par Poutine, hein, c'est ça.
Absolument, on essaie
de le tuer dans son avion. C'est Poutine qui le sauve. L'autre comprend, en fait, qu'il allait être liquidé alors qu'il avait, obéi depuis des années. Il essaye de se retourner et de se sauver. Et là, on assiste à ce feuilleton,
en temps
réel, là. Le basculement d'Erdogan et de la Turquie, qui est quand même pas rien, le basculement de la Turquie.
Alors, hein. On lui reprend Istanbul, qui est tenu, donc, par les bobos kémalistes, quoi, si on veut.
Et la CIA,
donc, on lui reprend Istanbul.
Qui démolit
la question.
Une semaine après. Attaque sur la monnaie.
J'ai fait tout un reportage avec la JP Morgan. Hein, j'ai fait tout le reportage dans la Turquie.
Il
là.
Se passe des choses en ce moment.
On suit l'Italie aussi avec Salvini qui va revenir. On va voir si Johnson, la question du Brexit qui est toujours dans les tuyaux.
Ah oui,
on voit que on essaye de
tous les côtés. On voit qu'il y a
voilà.
une guerre. Puis
l'Italie, là, il y a un gouvernement qui représente absolument personne, puisqu'en fait le 5 étoiles, tout le monde s'est rendu compte que c'était des tocards, c'est des candidats de télé-réalité. Hein, franchement, les types.
Et puis ils ont sauté sur les questions immigrationnistes.
Et puis voilà, c'est ça, exactement comme Tsipras. Comme Tsipras, c'est toujours la gauche trotskiste et pareil et le parti démocrate qui est en lambeau, qui fait plus rien, qui revient au pouvoir et donc là ça peut pas durer éternellement. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une contradiction. Salvini qui était en train de créer une monnaie pour plus ou moins sortir de l'euro, hein, on voit tout ce qui se met en place, il voit que quelque chose allait se
toujours le gauchisme qui vole au secours
allait,
de l'empire,
allait arriver contre toujours. Lui et qui met un but contre son camp, c'est son expression, il a dit j'ai mis un but contre mon camp. Bon, mais en même temps à suivre.
N'oubliez pas, c'est cette petite pute socialiste qui s'appelle Jacques Delors, hein, gouverneur de la Banque Centrale, européiste convaincu, qui a supprimé l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est quand même, ceci explique cela, pourquoi les gens gagnent beaucoup moins.
Alors, le truc qui est un peu, qui m'agace un peu moi, c'est que quand je lis par exemple le bouquin de Cathy O'Brien, c'est-à-dire qu'ils disent qu'au départ du projet MK Ultra et du contrôle mental, ils impliquent Himmler. C'est-à-dire, ils veulent, alors sans doute pour le vendre aussi au grand public, ils disent que c'est les nazis qui ont inventé ça, c'était Himmler avec l'ordre noir de l'ASS qui se posait toutes ces questions de contrôle mental, qui travaillait là-dessus. Moi, il me semble que on n'a pas eu besoin des nazis, hein, puisque si tu regardes les élites anglo-saxonnes, ils sont déjà dans cette hyper-violence, dans cet hyper-contrôle dès la reine Victoria et même avant. Et ce qui m'agace un peu effectivement, c'est toujours la nazification du mal, tu vois.
Voilà,
il n'est pas question de réhabiliter le nazisme, on n'a pas besoin d'eux, tu vois.
Non, les élites allemandes. Les élites allemandes déjà ont été relativement sauvées pour appuyer le projet européen. On voit très bien aujourd'hui avec Ursula von Machin, qui est la nouvelle à la Commission européenne, qu'on reste quand même dans ces élites allemandes qui survivent.
Oui, puis l'affaire Paperclip.
Oui, l'affaire Paperclip.
On recycle.
Von Braun, la NASA, c'est Von Braun plus Walt Disney, quoi. On met le V2 plus. Enfin voilà, donc.
Les Anglo-Américains, c'est-à-dire les Anglo-Saxons, sont déjà dans de l'hyper-violence et de l'hyper-contrôle dès les années 20.
Mais je pense que
avec propagande du neveu de Freud, ça sort sur Arte en ce moment là. Ils ont tellement de problèmes à contrôler le complotisme aujourd'hui qu'ils en sont à faire eux-mêmes des émissions sur le complotisme. Et ce soir passe sur Arte, c'est accessible d'ailleurs en replay. Comment est née la propagande et toute une émission Arte sur la propagande où ils sont obligés de parler de Bernays, Édouard Bernays. L'inventeur du terme, et qui est le neveu de Freud, et qui se met au service du gouvernement américain dès les années 20 pour faire du contrôle mental de masse, parce qu'il faut bien qu'il y a le contrôle mental d'élite MK Ultra, mais on est quand même globalement dans une idée de contrôle mental, c'est-à-dire de contrôler les masses démocratiques pour les faire voter à l'envers, et leur faire passer de la dictature pour de la démocratie. On est quand même dans un énorme processus de contrôle mental, les médias mensonges, etc. Et ça, il n'y a pas besoin d'attendre les nazis pour ça. Les Américains sont des professionnels de haut niveau de ça, les années 1920. C'est
avec
là où
la radio, l'émergence des radios qui était l'internet de l'époque. Hein. Enfin, il y a un très bon livre là-dessus de Roger Gérard Schwarzenberg, L'État spectacle 1 et 2. Ça, c'est vraiment très, très 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 bon sur la propagande et la manipulation mentale. Amener les gens à voter, amener les gens à accepter l'idée de la guerre, de faire la guerre. Très important. Hein, c'est les Américains, on l'a vu lors de la Première Guerre mondiale, par exemple, les Américains ne voulaient pas, ils voulaient d'abord récupérer tout l'or en leur vendant des armes.
Quand tu es à la tête d'un État et que tu déclenches de façon perverse une guerre dont tu vas savoir que ça va faire des centaines de millions de morts, je parle même pas du 11 septembre où on tue 3000 personnes volontairement, avec, comment il s'appelle, le Silverstein qui a racheté des tours qu'il faut désamianter, donc c'est sa ruine, sauf si elles sont impactées par des avions dans le cadre de terrorisme, puisqu'il a pris des assurances, deux assurances pour ça. Donc tu voudrais bien qu'il est impliqué dans le projet, et que dans ce projet, peut-être même d'ailleurs qu'il a même pas le choix, on lui dit tu vas faire ça, puisqu'on est dans les réseaux, le type, il co-signe pour la mort de 3000 personnes, et dont des milliers de pompiers américains, faut voir le niveau. Donc quand tu accèdes à ce niveau de cruauté,
de perversion,
de cruauté, ta sexualité est en relation. Tu vas pas jouir en faisant des bisous à une femme en disant je t'aime chérie. Ça passe par du sadisme, ça passe par du viol, ça passe par de l'humiliation, ça passe effectivement par le sommet de tout ça, qui est de sadiser, de violer, de terrifier, voire de tuer un enfant. Je veux dire, c'est forcément corrélé. Et quand tu regardes la fin de vie d'un type qui est, qu'on considère comme un héros en Occident, qui est Churchill, regarde comment Churchill a fini sa vie. Hein, voilà. Ce qu'on soupçonne de lui au niveau de sa sexualité, etc., et qui se dévoile beaucoup d'ailleurs après-guerre, qui était d'ailleurs un crétin complet, hein, je veux dire, et c'est le brave anglais, c'était Chamberlain, hein, quand même, hein. Et puis qui l'a financé, qui l'a remis en selle, comment il était totalement cramé depuis la guerre des Dardanelles, ruiné et cramé, tous nos héros qu'on nous a vendus, je vais pas être de Gaulle à part, parce que je vais être gentil, les Churchill, les Roosevelt, les machins, et tous ceux qu'on nous a diabolisés, est-ce qu'il est certain que Churchill soit un meilleur mec que Hitler? Après on peut se dire tiens c'est vrai qu'on oublie quand même que les seuls qui ont balancé des bombes atomiques sur des populations civiles c'est quand même les Américains et que malgré tout c'est quand même les gentils. Là on est quand même dans le contrôle mental, tu vois.
C'est Hollywood.
Oui, oui, bah, on est dans le contrôle, Hollywood, contrôle mental. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, qu'on le prenne par le petit bout de la lorgnette, qu'on le prenne par la masse ou par les trucs, les opérations d'élite avec, où on programme des assassins. Parce que là, il y a des serial killers, MK Ultra, hein, c'est le même sujet, hein, c'est le même sujet. C'est le contrôle.
Qui est le volet du contrôle mental qui est pas sorti. Là, on est sur le contrôle mental mannequinat compromat, mais peut-être sortira effectivement sur des opérations terroristes. On s'est tous posé des questions, des descriptions des terroristes des attentats de Paris qui avaient été faites par des témoins, et qui avaient été publiés pareil dans la presse anglaise. Et la presse anglaise tout à fait libre, c'est un pays libre.
Je rappelle que Robert Kennedy a été assassiné par un Palestinien qui aujourd'hui est survivant et qui ne sait toujours pas pourquoi il s'est retrouvé à tirer sur le futur président des États-Unis, catholique comme son frère, et qui essayait, parce que c'était le vrai mec sérieux en fait, plus que son frère, qui essayait de prolonger le travail de nettoyage des écuries qui étaient déjà les prémices de cette guerre profonde, état légitime, état profond. Il est quand même assassiné à bout portant par un Palestinien qui ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il a fait ça. Et là, on est vraiment au cœur du MK Ultra dans le volet tueur, tu sais, tueur à gages amnésique.
Et c'est exactement.
Il y a eu plein de films Hollywoodiens là-dessus.
C'est des tueurs à gages, des tueurs professionnels que décrivent précisément les témoins des attentats du 13 novembre dans la presse anglaise et qui n'ont rien à voir avec la description des oseaux qu'on nous présente à la télé, quoi.
Enfin, en tout cas, pour vous donner le meilleur exemple du lavage de cerveau, je rappelle quand même que c'est le génocide des Indiens par les protestants hollandais, etc., pour prendre la conquête des États-Unis. Mais Hollywood l'a transformé. Oui, hein, les cowboys et les Indiens, et les cowboys sont les gentils, les Indiens c'était.
Bah, c'est ce que j'avais dit, que le gros problème qu'avait eu l'URSS, c'est de ne pas avoir Hollywood.
Oui,
c'était le gros problème. Parce que sinon, quand tu regardes le bilan,
ils sont très mauvais en communication, les Russes.
Oui, ils étaient dans la propagande.
Ils sont améliorés là quand même.
C'est la différence entre la propagande et la communication. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'eux, ils mettent des mecs en uniforme et nous, on met des hôtesses avec 95 de tour de poitrine. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus facile de faire passer les choses par une jolie femme que par un mec en uniforme militaire. Voilà.
Bon. À suivre.
À suivre, parce que là, c'est vraiment intéressant. Et si on peut résumer, c'est vrai que l'affaire Epstein, aujourd'hui, a mis au jour une sorte de bataille. Alors on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas clairement
on a une petite idée.
Clairement en tout cas les appels de Macron, les appels du pied de Macron, comme disait Alain tout à l'heure, sont effectivement très très intéressants. Et on voit bien que là il a choisi son camp, on va dire ça comme ça.
Et on parlait d'état profond. Moi je suis désolé, quand on voit Eindhoven à la conférence qu'organise Marion Le Pen, là c'est l'état profond qui vient surveiller un truc en gestation mis en place par un autre de l'état profond qui est Golnadel.
Il y a du Eindhoven partout.
Voilà.
Mais même chez Asselineau, attends, le mec,
il y a aussi du Glucksmann partout.
À faire venir un môme.
Alors, ce qui est intéressant aussi, tiens, autre remarque. On voit bien que depuis André Gide, famille Je Vouais, tout ce qu'essaie de nous imposer l'idéologie d'élite, c'est, dans les familles catholiques, on doit détester son père, tu sais, c'est casser la transmission, respect, le patriarcat. Or, dans les familles dont on parle, les Eindhoven ou les Glucksmann, il n'y a jamais d'attaque contre le père. Il y a transmission, il y a reprise de l'héritage, il y a reprise de la boutique.
Et là, c'est le fils Buisson qui s'y colle.
Les gens qui nous vendent Famille, je te hais, et n'oublie pas que le livre d'ailleurs du petit capot, comment il s'appelle, Yann Moix, c'était là-dessus. C'était Orléans, c'est Famille, je te hais. Chez les Glucksmann, chez les Enthoven et chez tous ces gens-là, il y a transmission, il y a père et fils, tu vois ce que je veux dire, il y a jamais d'attaque contre le père.
Ça a un peu bugué avec la fille de Bernard-Henri Lévy, là, Justine Lévy.
Ah, mais je pensais que tu parlais de Carla
Bruni. Elle avait balancé quand même.
Oui, elle avait balancé parce qu'elle s'est fait, elle a été cocufiée, et d'ailleurs, pour se venger, t'as vu qu'elle a avorté son gosse à 5 mois, ce qui est totalement illégal. Et ce qui normalement est passible
de poursuite. Et lui, quand il a fait son gosse après avec Carla Bruni, donc qui est le petit Aurélien Enthoven, a repris le nom.
Asselineau.
A repris le nom du gamin qu'il devait avoir avec Justine Lévy. Enfin, l'histoire, c'est un vaudeville.
À quel niveau Asselineau s'est prostitué pour amener un môme qui joue encore
dans son bac à sable? Mais ça, c'est des signaux qu'il envoie.
Qui fait sa rentrée à Sciences Po, qui fait sa rentrée à Sciences Po.
Il envoie des signaux à état profond. Alors après, il y a un autre sujet qu'on n'abordera pas, c'est qu'on découvre aujourd'hui de plus en plus que des personnages politiques qu'on estimait des personnages de résistance, quelque part, on va dire des patriotes ou des souverainistes, sont au minimum bisexuels, c'est-à-dire ils ont tous un amant, on va pas citer de nom, mais ça aussi on dirait ben on peut citer Dupont-Aignan alors, et puis on peut citer Dominique de Villepin avec
Lambert Wilson.
Voilà, ce que tout le monde sait, évidemment. On a l'impression que pour être coopté par l'état profond, il faut déjà avoir ce qu'on pourrait appeler une sexualité défaillante, hein. C'est-à-dire, parce que par rapport au peuple.
Bisexuel, c'est ça?
Par rapport au peuple, c'est-à-dire que quand on sait que t'es homo, alors que tu te fais passer pour un cador, un héritier de Gaulle, ça te crame un peu, parce qu'il y a quand même, on le voit avec le football en ce moment, que quand on demande d'arrêter les matchs pour slogan homophobe, le président de la fédération dit vous allez tuer le football, parce que le mec qui va au football, il aime bien pouvoir crier PD, tu vois ce que je veux dire, c'est des fondamentaux anthropologiques, ça, tu vois.
Oh, ils
sont enculés. Ouais. Et là, tu découvres en fait que pratiquement tous les types qui ont accédé à un certain niveau en politique sont bisexuels. Ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont, ils se font enculer, ils acceptent de se faire enculer, ce qui veut bien dire, dans toutes les acceptions du terme, que ce sont des soumis, que ce ne sont pas des vrais résistants. Hein. Il faut peut-être le comprendre comme ça. Et d'un seul coup, tu découvres effectivement Dupont-Aignan. On vient de me balancer Asselineau, là, tu vois. Alors, je confirme pas. Oui, on vient de me le balancer, là.
Édouard Philippe, maintenant.
Édouard Philippe, bisexuel, voilà, ils le sont tous. Donc, on a l'impression que c'est une des cases qu'il faut cocher pour avoir le droit d'accéder au niveau supérieur, tu vois ce que je veux dire.
J'adore la case qu'il faut cocher, lol.
Non, mais je découvre tout ça, moi, tu vois. Alors après que Dupont-Aignan me fasse un procès, ou que Villepin me fasse un procès, parce que d'abord, ils ont le droit d'être bisexuels, et n'oublie pas Mimi Marchand, à l'époque Mimi Marchand, son travail, c'était d'avoir les photos et les pièces pour faire fermer leur gueule au moment de la campagne électorale de Macron.
Et rappelle-toi que Marc Ladret de la Charrière, qui soutient Fillon, se fait accuser et ne répond pas. Pourquoi il répond pas? Parce que Mimi Marchand l'a couvert un an avant sur la condamnation de son fils pour pédophilie.
D'accord.
À Marc Ladret de la Charrière. Et donc le clan Fillon dit rien parce qu'ils sont tétanisés, parce qu'ils savent quand elle a le dossier. Fillon.
Il n'en était pas de la double vie.
Il changeait un peu de neveu toutes les semaines, non?
Aussi. Ça c'est officiel, tu vois. Ils en sont. Donc on dirait que pour accéder à un certain niveau d'exécution politique, pour être sûr que les mecs soient bien des double cross, il faut qu'ils soient sexuellement des double cross. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'acceptes de te faire taper au derche, ça veut dire quand même quelque chose symboliquement, tu vois.
C'est clair.
Et Le Pen, tu peux chercher Jean-Marie Le Pen que j'ai bien connu, il n'en est pas de la jaquette, tu vois.
J'avais lu un papier justement il n'y a pas très longtemps à ce sujet, enfin bon, peu importe, comme quoi il a eu des amitiés particulières.
Non, il n'a pas de police des braguettes chez lui, et il a des amis homosexuels, ça n'a rien à voir, moi aussi j'en ai, c'est que le mec, voilà, n'est pas de la jaquette. Or les autres, tu te découvres, à un moment donné, qu'ils en sont tous.
Et c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Dupont-Aignan ne passe pas. Hein, il n'a jamais passé parce que les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui colle pas dans
son attitude.
Et puis surtout,
à un moment donné,
dans sa façon de parler.
Si on veut le cramer, compte tenu de ce qu'est la mentalité profonde du Gaulois de base et du Gilet jaune, si à un moment donné, un mec qui prétend être le sauveur de la France, le nouveau général Boulanger, on te découvre qu'en fait, il envoie des mots d'amour à un gamin en le traitant de chien de feu, etc., parce qu'on les a tous, hein, les messages.
Tu parles d'Asselineau?
Non, là, je parle du poignant.
Jean-Philippe Tanguy, ça s'appelle voilà, Mon chien de feu.
Eh ben, le mec, il est ridiculisé, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Donc, ils sont tous tenus.
Si t'aimes les glaces aussi.
Non, mais attends, mais c'est très bien parce que là, tu as abordé la
j'ai chose. J'ai tout ça dans ma musette, au cas où certains voudraient
accrocher à ma vie.
J'ai tout, j'ai plusieurs avocats avec des enveloppes scellées.
Je me suis demandé, mais c'est quoi le truc là? C'est quoi son projet? Pourquoi il a invité un gamin qui joue encore avec ses dinosaures? Je comprenais pas ce qu'il foutait là, quoi. Je me dis, mais c'est quoi son projet? C'est quoi son plan?
On en parlera en antenne si tu veux.
Oui, d'accord, je vois. Ok, bon.
Bon. Bah, en tout cas, ça,
c'est une émission qui c'est le tonneau des Danaïdes. Hein.
Bah, ouais, c'est ça. Ouais.
On en finira jamais là-dessus.
Félicitations au Mossad, bravo. Ils doivent avoir des kilomètres, des centaines de kilomètres de films de mecs qui se font des gamines de 12 ans, etc. Ils peuvent le faire chanter, journaliste, homme politique, sénateur, député. Et ils peuvent faire voter toutes les lois qu'ils veulent.
Avoir une petite phrase gentille pour terminer. L'affaire Ramadan à côté, c'est de la petite bière. Hein. C'est vraiment de la petite bière. C'est du tout petit joueur. Hein. C'est du kebab. Hein.
Oui, mais on en, mais le, ça a permis en fait à masquer l'affaire Epstein.
C'est du kebab par rapport au McDonald's.
Hein. Et tout à fait, ouais. Allez, c'était Fait et Document, l'émission de la rédaction de Fait et Document. Merci Pierre Jovanovic d'être venu.
Merci
Alain Soral. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.